de Poitiers. Oh, j'ai une voix quand même assez forte, mais bon. Que le groupe de Poitiers vous accueille pour cette conférence qui accompagne l'exposition Dignité que vous avez pu voir à côté, Dignité et Pauvreté. Donc, je vais vous présenter nos conférenciers. Monsieur Yves Prigent, je donne son titre exact parce que je n'avais pas toujours. Voilà, qui est responsable donc national donc du programme Lutte contre la pauvreté et les discriminations. Et à l'intérieur de ce programme, à Amnesty donc International France, il y a une campagne qui s'appelle Exigeons la dignité. Et c'est pourquoi il y a donc cette exposition sur la dignité. Donc à l'intérieur de ce grand dossier. Donc monsieur Yves Prigent et non pas ça a été rectifié. Parfait, très rapide. Voilà. Et monsieur Dominique Breillat que je vais quand même vous présenter bien que Poitiers connaisse bien monsieur Breillat, donc professeur émérite, doyen honoraire de la fac de droit de Poitiers et qui va nous parler donc de la dignité qui est une notion difficile. Et c'est pas toujours suivi, même à Amnesty, où on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait un peu à s'occuper de la dignité, alors qu'au début, on s'occupait des prisonniers d'opinion, n'est-ce pas? Donc, voilà ce que je voulais vous dire, et que sur l'exposition, vous avez pu voir différents thèmes, la terre, l'identité, le logement, la santé, la sécurité, tout touche à la dignité. Et voilà, je vous passe la parole. Bonne soirée. Je vous passe la parole, messieurs.
D'accord. D'accord. Donc, on vous propose que la soirée se déroule en deux temps. On va chacun faire une petite intervention, 15-20 minutes, pour présenter un peu les enjeux du débat selon nos points de vue respectifs. Et puis après, ça sera à vous. Enfin, voilà, on suggère plutôt d'avoir un échange avec vous pour prendre vos questions, suivre des interrogations, des affirmations qu'on aura pu avoir dans nos présentations respectives. Donc moi, forcément, je présenterai principalement le volet amnestien. Et Dominique Breillat fera tout le reste. C'est une sacrée responsabilité. Et donc voilà, donc, c'est Dominique qui va commencer.
Bien, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais rectifier la très mauvaise présentation qui a été faite de ma personne, en ce sens qu'il n'y a qu'une seule chose qu'il y avait à dire, c'est que je suis membre d'Amnesty International. Et pour moi, ça me paraissait quand même très important. Et que peut-être dans cette salle, je suis le membre le plus ancien. Voilà. Mais j'insistais beaucoup et je vais vous dire pourquoi c'était important. Bon, d'abord parce que c'est vrai que l'engagement à Amnesty International a pour moi toujours eu beaucoup d'importance, même si malheureusement j'ai un peu trop d'activités par ailleurs qui m'empêchent d'être un bon membre. Et notamment pour moi, le bon membre, c'est le membre de groupe. Je ne suis que membre individuel. Mais quand on évoque le droit à la dignité, j'ai un peu l'impression pour nous d'un retour aux sources. Le retour aux sources, c'est que quand j'ai adhéré à Amnesty International, il n'y avait en réalité que trois points sur lesquels on portait notre attention. Le troisième venait d'ailleurs tout juste d'être adopté en ayant suscité beaucoup, beaucoup de débats. C'était bien entendu la libération des prisonniers d'opinion. C'était l'interdiction de la torture dans quelque cas que ce soit, et c'était l'abolition de la peine de mort. Or, ce point qui venait tout juste d'être mis dans le mandat d'Amnesty, c'était cette question de l'abolition de la peine de mort. Or, l'abolition de la peine de mort, c'est quelque chose dont nous avons beaucoup parlé, dans le groupe bien sûr, mais aussi dans les réunions que nous avons pu faire. Et parmi les arguments, bien entendu, que l'on invoquait, il y avait l'idée de dignité de la personne humaine qui faisait qu'on ne pouvait absolument pas admettre l'idée de la peine de mort parce que c'était contraire à l'idée de dignité de la personne humaine. Et donc, finalement, revenir à cette idée de dignité, ou plutôt la continuer à la développer, me paraît quelque chose d'important, même si on va le voir, on va le dire, et vous-même, vous aurez sans doute cette réaction. La question de la dignité de la personne humaine n'est pas quelque chose de facile à définir. Ça fait partie de ces concepts que l'on sent presque évidemment. Mais quand on vous demande une définition, là, on est bien ennuyé. Or, malheureusement, je veux dire, heureusement, je suis membre d'Amnesty, malheureusement, je suis juriste. Et le juriste, lui, il a besoin de définitions pour que les choses soient opérationnelles. Et quand on lui demande une définition de la dignité, eh bien, il a du mal à en trouver. Parce que ce que l'on constate, c'est que la dignité, on va l'affirmer. Et j'évoquerai un très grand nombre de textes dans lesquels on affirme le principe de la dignité de la personne humaine. Mais quand il s'agit de définir, les textes ne nous disent rien. Je n'ai pas trouvé un seul texte qui nous donne une définition de la dignité. Une de mes collègues écrit « La notion la plus évidente et la plus complexe dont le juriste ait eu à connaître ces dernières années ». Ces dernières années, oui, parce que c'est aussi un des paradoxes de cette question de la dignité. Dignité, comme toujours, quand on recherche l'origine d'un mot, bah, c'est classique, on va voir dans l'Antiquité, on va voir chez les Grecs, chez les Romains. Et en effet, on trouve là le mot de dignité. Mais le mot de dignité, il se présente d'une toute autre façon, parce que c'est la dignité à travers des fonctions, pas du tout liées à l'existence même de la personne humaine. Alors dans ce domaine-là, c'est vrai, la pensée judéo-chrétienne va apporter un certain nombre d'éléments allant dans ce sens plus moderne. Pourquoi ? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, d'où cette plus grande possibilité d'idée de dignité avec, je dirais, en conséquence, en arrière-plan, le fait qu'on ne doit pas toucher à ce qui est à l'image de Dieu. Autrement dit, le caractère intangible, le caractère quasi sacré de la personne humaine, et précisément parce qu'il y a cette dignité. Mais très vite, je dirais, bon, alors bien entendu, on pourrait là aussi faire des recherches allant beaucoup plus loin, évoquer Kant notamment dans ce domaine. Bon, je crois qu'on essaiera d'aller encore un peu plus rapidement. En réalité, le grand tournant qui fait ressurgir l'idée de dignité, et on va voir quelle influence ça a pu avoir, c'est bien entendu les dictatures fascistes et nazies, c'est bien entendu la déportation, l'Holocauste, et avec tout son cortège de crimes contre l'humanité qui ont précisément porté atteinte à la dignité humaine. Or, c'est immédiatement après la chute du nazisme que l'on va trouver les tout premiers textes qui mentionnent cette idée de dignité. Les tout premiers textes qui mentionnent cette idée de dignité, eh bien, tout simplement, la Charte des Nations Unies. Charte des Nations Unies, c'est quand même juin 1945. Donc, la situation historique est facile à comprendre. Et on voit dans le préambule de la Charte, résolu à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine. On voit apparaître dans ce texte fondamental qui est la Charte des Nations Unies, là, l'idée, le mot de dignité. Le seul petit problème, c'est qu'on met cela dans le préambule et après, ça va de soi. On en parle beaucoup moins. Alors, bien entendu, quand on est à Amnesty International, on a le texte que l'on utilise beaucoup, qui est le texte parce qu'il a été adopté le jour de notre fête, finalement le 10 décembre, le 10 décembre 1948, c'est-à-dire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et là encore, c'est le préambule qui nous donne des indications, considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Et on rappelle que la Charte a proclamé cette dignité. Alors, bien entendu, dans la déclaration, on trouvera quelques petites références dans deux ou trois articles, mais on n'a pas une affirmation très solennelle d'un droit à la dignité. Et puis ensuite, il n'y a plus rien. Ensuite, on a l'impression qu'on oublie cette idée de droit à la dignité. Alors, bien entendu, on aura, si on reste dans le cadre des Nations Unies, on aura les pactes de 1966, qui là aussi sont des textes qu'à Amnesty International, on connaît bien. Mais là encore, c'est plutôt dans le préambule, même si le pacte sur les droits civils et politiques vient nous dire que toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Autrement dit, la dignité, elle apparaît, ou le droit à la dignité, ou l'existence de la dignité, apparaît presque au hasard, apparaît à l'occasion d'une petite phrase, mais il n'y a pas cette affirmation solennelle que l'on devrait avoir. Même chose dans le pacte du même jour sur les droits économiques, sociaux et culturels, sauf que il y a peut-être un article, je crois, sur lequel on devrait insister parce que nous sommes à Poitiers, et à Poitiers, je crois qu'il y a quelques enseignants. Et donc, dans le pacte, bien sûr, le préambule reprend exactement la même chose, mais vous avez l'article sur le droit à l'éducation. Et l'article sur le droit à l'éducation, c'est le seul qui évoque le droit à la dignité. Enfin, qui évoque plus exactement la dignité, là encore. Mais il est important, et je crois que nous avons intérêt à le prendre en considération, parce qu'on sait très bien que dans notre travail à Amnesty, l'éducation aux droits de l'homme est quelque chose de fondamental. Et l'article 13 sur le droit à l'éducation nous dit « L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité. » Alors je crois que tout enseignant devrait graver cela dans son cerveau. Alors après, on verra bien sûr, mais à partir de 1990, d'autres textes, d'autres déclarations qui viendront mentionner cela. Mais je dirais qu'il faut voir un peu ce qu'il en est à l'intérieur des États. À l'intérieur des États, parce que c'est souvent la seule chose que l'on connaisse. Je parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais vous savez très bien que malheureusement, dans un pays comme la France, la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a aucune portée juridique. C'est une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies que le gouvernement a eu l'hypocrisie de publier au journal officiel de la République française, mais que vous ne pouvez absolument pas invoquer devant un tribunal. En revanche, les pactes, oui. Mais dans le domaine du droit à la dignité, il y a un pays qui est le pays modèle et sur lequel je veux insister, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'Allemagne a eu sa loi fondamentale, c'est-à-dire sa constitution, en 1949. Et le premier article de cette loi fondamentale, mais vous comprenez très bien pourquoi les Allemands ont été véritablement, j'allais dire, obnubilés par cette question. L'article 1 de la loi fondamentale pose « La dignité de l'être humain est intangible ». Tous les pouvoirs publics ont l'obligation de la respecter et de la protéger. Article modèle, pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'il pose véritablement comme droit le droit à la dignité. Et pourquoi les Allemands ? Ben, on devine facilement pourquoi. Ils ont suffisamment payé pour savoir quel est le prix de la dignité. Mais cela veut dire aussi que inconsciemment, pour les Allemands, quand ils parlent de droit à la dignité, ils l'envisagent essentiellement sous l'angle interdiction de la torture, interdiction des expériences médicales que l'on a pu malheureusement connaître dans les camps nazis, etc. Ils l'envisagent sous cet angle. C'est en réalité, même si ce n'est pas dit, beaucoup plus étroit qu'on ne peut penser. Et mon collègue vous dirait, non, pour moi, ce n'est pas suffisant. Il n'empêche que l'Allemagne a lancé une idée. Et tous les pays qui, à partir de 1975, vont se doter d'une nouvelle constitution, c'est-à-dire tous les pays... même à partir de 1974, mais la constitution de 1975 en Grèce, tous les pays qui deviennent une démocratie, eh bien tout de suite, ces pays mettent le droit à la dignité dans leur constitution. La Grèce le fait. Les tortures, tous sévices corporels, toute atteinte à la santé ou contrainte psychique, ainsi que toute autre atteinte à la dignité humaine sont interdits. Les Portugais font la même chose, avec, malgré tout, des choses qui vous intéresseront plus. Parce que les Portugais ont une constitution intéressante qui va plus loin. Sans doute, ils nous disent, le Portugal est une république souveraine fondée sur la dignité de la personne humaine et sur la volonté populaire. Mais il ajoute, dans un article un peu plus loin, tous les citoyens ont la même dignité sur le plan social. Et là, très certainement, ça nous ouvre beaucoup plus de possibilités. Alors, je pourrais multiplier les exemples, bien sûr, je ne le ferai pas, mais on va retrouver cette idée dans les pays du bloc de l'Europe centrale et orientale à partir de 1990. La Pologne va, bien entendu, tout de suite mentionner cela. La dignité inhérente et inaliénable de l'homme constitue la source des libertés, des droits de l'homme et du citoyen. Elle est inviolable et son respect et sa protection sont le devoir des pouvoirs publics. Et puis, il y a d'autres pays. Alors, c'est vrai que maintenant, on a tendance à un peu moins les attendre. Tout bêtement, la Russie. La Russie, qu'est-ce qu'elle nous dit ? La dignité de l'individu est protégée par l'État. Rien ne peut motiver son abaissement. Alors, amis de Amnesty, quand vous écrivez à telle ou telle personnalité, ben, n'hésitez pas à citer, je vous y renvoie, l'article 21 de la Constitution russe. Ça peut être utile. Alors, vous me direz, bon, c'est bien gentil, la Russie, etc. Alors, c'est vrai qu'à Amnesty, on a une fâcheuse tendance, nous, à nous mêler de ce qui ne nous regarde pas et d'aller voir ce qui se passe à l'étranger. Mais certains d'entre vous diraient, eh oui, mais alors la France, quand même, ce serait peut-être intéressant de s'en occuper. Alors, je dirais qu'il y a deux choses pour la France. D'abord, une première chose, et là-dessus, bien entendu, Amnesty a toujours joué un rôle important en faisant en sorte que la France ratifie les conventions internationales. Il y a, en effet, ces conventions internationales que j'évoquais, les pactes de 1966. Et puis, il y aurait la Convention européenne des droits de l'homme, mais elle est de 1950, et alors il n'y a rien sur le droit à la dignité. Seulement, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme peut nous apporter des éléments assez intéressants, encore que ce soit une jurisprudence parfois ambiguë. Et puis, il y a la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors malheureusement, son application reste limitée à la compétence de ce qui touche à l'Union européenne. Cette charte, elle a été adoptée, vous le savez, en 2000. Non, vous ne le savez pas parce que ça a été fait en catimini. Vraiment, on avait presque l'impression d'avoir honte d'adopter cette charte. Mais il est vrai qu'il y avait des gens qui étaient plus honteux que nous. C'était, par exemple, les Britanniques qui n'ont pas voulu être liés par ce texte et qui ne le sont toujours pas, ce qui explique beaucoup de choses sur la situation des droits de la personne humaine au Royaume-Uni. Mais la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le premier article est ainsi rédigé. La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. Alors, c'est intéressant. Seulement, c'est facile à comprendre. Pourquoi ? Parce que cette charte, elle a été élaborée par un petit groupe dont le président était l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, qui connaissait quand même bien sa loi fondamentale, et il la connaissait d'autant mieux qu'en plus, il avait été président de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Autrement dit, c'est l'influence de l'Allemagne qui a fait que le premier article, l'article de base en ce qui concerne nos droits fondamentaux dans l'Union européenne, c'est le droit à la dignité. Alors après, bien sûr, on va retrouver, mais je serais tenté de dire presque par hasard, on va retrouver des articles, j'en citerai deux, parce que là encore, mon voisin sera intéressé. J'en citerai deux, c'est l'article 25. Mon voisin sera intéressé, et moi aussi, parce qu'il s'agit des droits des personnes âgées. Donc, je me sens concerné. L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle. Le mot de dignité figure pour les personnes âgées. Mais il y a aussi, et là, ça vous intéressera encore plus, l'article 34. Mais là, j'empiète peut-être sur ce que vous allez dire. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté. Alors, il faudrait le rappeler de temps en temps à la Commission, au Conseil des ministres, au Parlement européen. Hein, article 34, alinéa 3. Hein, donc. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinée à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales. Là, il y a quelque chose qui permet d'extraordinaires ouvertures en ce qui concerne notre préoccupation à Amnesty International. Mais la France, c'est aussi le problème de sa constitution. Et alors là, on a manqué plein d'occasions. On a eu beaucoup de commissions en France qui se sont réunies pour proposer des révisions de la Constitution. Commission Vedel en 1993, Commission Balladur, la Commission Simone Veil qui devait travailler sur la question des droits nouveaux, la Commission Jospin. Et certaines de ces commissions avaient en effet proposé et ils n'avaient pas de grandes ambitions en ce qui concerne les nouveaux droits. En général, ils proposaient le droit à la vie privée et le droit à la dignité. Et là-dessus, en effet, il y avait des propositions. Et puis ces propositions n'ont malheureusement jamais été suivies d'effet. Alors c'est finalement le Conseil constitutionnel qui a fait le travail. Alors comment est-ce qu'il l'a fait ? Bon, le Conseil constitutionnel, il n'aime pas beaucoup dire, eh bien, moi, je dis qu'il y a tel droit. Pourquoi ? Ben parce qu'on va dire de quoi vous vous mêlez. Ça, c'est le travail du législateur ou du constituant. Ce n'est pas votre travail à vous. C'est le gouvernement des juges. Où va-t-on ? Ça va être pire que la Cour suprême américaine. Et le Conseil constitutionnel, dans une décision fondamentale, du 27 juillet 1994, qui portait sur des lois relatives à la bioéthique. Eh bien, le Conseil constitutionnel a découvert, ou j'allais dire inventé au sens juridique du terme, a découvert le droit à la dignité. Alors comment a-t-il fait ? Eh bien, tout simplement, il s'est fondé sur le préambule de la Constitution de 1946, préambule que l'on connaît mal, on connaît beaucoup mieux la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, mais le préambule fait partie de notre préambule. Dans le préambule de la Constitution de 1958, il y a une référence au préambule de la Constitution de 1946 qui est tout à fait fondamentale, notamment pour nos préoccupations d'aujourd'hui, puisque c'est dans ce préambule qu'il y a précisément les droits économiques et sociaux. Or, vous lisez ce préambule, vous dites, non, il n'y a rien, il n'y a pas le droit à la dignité. Mais si, parce que vous ne savez pas lire. Tandis que le Conseil constitutionnel, lui, il sait lire. Et le Conseil constitutionnel, il a lu dans le préambule un petit passage qui évoque les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine. Alors c'est évident, vous avez tous compris, bien sûr, comme le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a dit, en effet, il ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Donc, à partir d'un texte qui n'évoquait absolument pas le droit à la dignité, le Conseil constitutionnel a dit, vous voyez, c'est évident, il y a le droit à la dignité dans notre Constitution. Alors, c'est quand même tout à fait important, bien sûr, d'autant plus qu'il s'agissait de projets de loi qui avaient trait à la bioéthique. Et c'est précisément parce qu'il s'agissait de projets de loi qui avaient trait à la bioéthique que l'on se retrouve, je dirais, dans cette approche de cette époque qui est encore marquée par l'Holocauste, marqué inconsciemment par les expériences des médecins fous des régimes nazis. D'où cette idée que, précisément, tout ce qui touche aux expériences médicales, etc., tout ce qui touche à la médecine, doit être sous le sceau de ce droit à la dignité. Et en effet, il y avait pour le Conseil constitutionnel quatre principes dans ces textes. La primauté de la personne humaine, le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, l'inviolabilité, l'intégrité et l'absence de caractère patrimonial du corps humain. Ça, c'est très important dans un pays comme la France parce que l'idée, vous le savez, n'est pas malheureusement une idée que l'on retrouve partout. Et l'intégrité de l'espèce humaine. Et le Conseil dit, les principes ainsi affirmés tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Alors, à partir de cela, je vais essayer de terminer vite, à partir de cela, mais il y aurait encore beaucoup à dire, à partir de cela, eh bien, on va voir le Conseil constitutionnel. On verra le Conseil d'État, la Cour de cassation, eh bien, essayer d'élargir cette idée de droit à la dignité, de trouver de nouveaux champs d'application. Bien sûr, le domaine médical, on est d'accord, mais ce sera l'intangibilité du corps humain. Mais ça, pour tout le monde, c'était évident, là. Ça ne posait pas de problème. Mais on va trouver, en fait, l'idée... Bien sûr, dans le domaine, alors parfois avec des mots proches, pas forcément le mot de dignité. Par exemple, pour le logement, où on parlera de logement décent et non pas de logement, difficile de dire de logement digne, mais de logement assurant la dignité de ceux qui l'occupent. On verra cela en droit des étrangers. En autorisant le recours à des salles d'audience spécialement aménagées à proximité immédiate des lieux de rétention, le législateur a entendu limiter des transferts contraires à la dignité des étrangers concernés. Donc, dignité des étrangers, là aussi, la dignité, elle n'est pas seulement pour les Français. Et puis, pour les détenus, sur la loi pénitentiaire en 2009, il appartient au législateur de déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité des personnes. Et on verra, le Conseil d'État réceptionner très vite, à propos des baumettes, une telle décision. Seulement, on attend encore que ça aille plus loin, et notamment dans le domaine social, parce que on ne sera pas finalement très satisfait de constater qu'il y a des domaines qui manquent encore dans ce domaine. Je pense, par exemple, le domaine de l'emploi. Le fait de ne pas avoir d'emploi, est-ce que cela ne doit pas être considéré comme une atteinte à la dignité des personnes ? Donc il y a là aussi beaucoup de choses sans doute à dire. Et aussi, la dignité devient quelque chose qui peut être ambigu. Parce que le droit à la dignité, maintenant, peut être utilisé contre l'utilisation d'autres libertés. Et on en a eu des exemples à cet égard, car le Conseil d'État a intégré, semble-t-il, la notion de dignité dans la notion d'ordre public. Et une affaire que tous les étudiants connaissent, l'affaire de la commune de Morsan-sur-Orge, plus connue sous l'affaire du lancer de nains, eh bien, un maire avait interdit le lancer de nains qui était un type de spectacle très, très en vogue en Australie et aux États-Unis. Le tribunal administratif de Versailles avait annulé l'arrêté du maire et le Conseil d'État a annulé le jugement du tribunal administratif en disant que, précisément, le maire pouvait annuler cela au motif que il n'y avait pas de circonstances locales particulières et donc que, par son objet même, ce spectacle portait atteinte à la dignité de la personne humaine. Ce qui a suscité beaucoup de polémiques. Pourquoi ? Parce que M. Wackenheim, qui était la personne en cause, eh bien, lui disait « Mais moi, je suis d'accord. En plus, ce spectacle m'a permis de ne plus être chômeur. » Et l'affaire est allée très loin, puisqu'elle est allée devant la Commission européenne des droits de l'homme, bon, qui l'a déboutée, mais pour des raisons, j'allais dire, de procédure, et devant l'ONU, devant le Comité des Nations Unies, et qui a donné raison à la France. Mais on a eu un exemple beaucoup plus récent avec l'affaire Dieudonné. Car dans l'affaire Dieudonné, pour justifier l'interdiction des spectacles de Dieudonné, l'argument a été de dire « mais le spectacle est susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes ». L'ordonnance de référé nous dit « les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevée lors des séances du spectacle Le Mur tenu à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisaient pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine consacrée par la Déclaration des droits de l'homme et la tradition républicaine. » Alors c'est ce qui fait que ce droit à la dignité qui pouvait nous paraître comme quelque chose d'évident, en réalité, parce qu'il n'y a pas de véritable définition, eh bien est un droit qui finalement n'est pas un droit maniable d'une façon aussi simple que cela par les juristes. Ça veut dire que sur cette idée de droit à la dignité, quelle est sa définition, quel est son champ d'application notamment, il y a beaucoup de travail à faire, un travail que fait dans un très grand nombre de domaines Amnesty International et que bien entendu on va vous parler maintenant.
Au risque de vous décevoir, je pense que je serai moins pointu sur le lancer de nain, mais voilà, je vais quand même essayer d'être à la hauteur de cette intervention brillante. Je vais revenir, je pense qu'il y a des points vraiment de recoupement entre ce que vous venez d'entendre et puis ce que je vais vous dire, donc je vais essayer d'alléger un peu pour passer là-dessus, pour ne pas être trop redondant. C'est vrai que nous, Amnesty, on se lance dans ce travail-là autour de la campagne Exigeons la dignité, mais on n'a pas forcément beaucoup plus d'éléments de définition que cela. Et je dirais quelque part, ce n'est pas si grave que ça, en tout cas de notre point de vue. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais auparavant, en fait, je vais revenir un peu sur de l'historique, puisqu'au final, si Amnesty en est là maintenant à travailler sur cette thématique-là, thématique élargie, c'est que justement, c'est le fruit d'une double évolution. Une évolution qui vient de vous être décrite au niveau international sur les textes de référence, au niveau interne aussi, à un certain nombre d'États. Et donc, il y a tout ce mouvement-là qui a connu pas mal de bouleversements. Donc, nous, notre socle de référence, effectivement, ce sont les textes des Nations Unies, tout corpus de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et sur lequel on s'appuie pour travailler fondamentalement, puisqu'on fait référence à ces textes-là comme point de droit, comme point irréfutable et comme point justement pour baser à la fois notre constat de violation des droits et à la fois proposer des solutions, ou en tout cas revenir sur des principes de responsabilité, de mise en responsabilité des États par rapport à ces droits. Donc notre évolution à Amnesty suit aussi cette évolution-là, cette évolution du droit international. Et les points de bouleversement se situent effectivement à la bascule post-guerre froide. Pourquoi ? Tout simplement, c'est qu'à l'origine, dans les textes de la DUDH, on identifie deux grandes familles de droits. Les droits civils et politiques, dont on vient de grandement vous parler, et d'un autre côté, les droits économiques, sociaux et culturels. Et ces droits-là ont connu une évolution très très différente, beaucoup plus rapide, surtout l'appareillage en termes de traités, de conventions, de pactes, qui pour le coup portent en eux-mêmes de la contrainte juridique. Et donc ça, c'est toute cette évolution-là, c'était sur les droits civils et politiques. Par contre, les droits économiques, sociaux et culturels n'ont pas connu cette évolution-là au même rythme. Tout simplement parce que la guerre froide et le clivage idéologique autour de la guerre froide a gelé tout cela au niveau des droits économiques, sociaux et culturels. Grosso modo, le camp occidental poussant beaucoup plus sur les droits civils et politiques pour gêner le bloc mené par l'ex-URSS ou l'URSS à l'époque, et l'URSS considérant qu'on pouvait avancer sur les droits civils et politiques uniquement à partir du moment où on avançait sur les droits économiques, sociaux, culturels. Il y avait une espèce de statu quo. Néanmoins, tout l'appareillage onusien que je viens de décrire, les conventions, les pactes, ont beaucoup plus rapidement avancé sur les droits civils et politiques. Puis, à la fin de la guerre froide, petit à petit, la prise en compte de ces droits économiques, sociaux et culturels a commencé à se faire. Et finalement, en parallèle, par rapport au socle de travail d'Amnesty, qui est effectivement le travail sur les droits civils et politiques, l'adoption des prisonniers d'opinion, la lutte contre la peine de mort, la lutte contre la torture, tout cela a évolué aussi en même temps, avec le constat, d'autres constats. Non seulement les droits de référence changeaient, évoluaient peu à peu, avec la baisse de ces clivages Est-Ouest, et en même temps, la nature des violations a évolué. Petit à petit, les modes opératoires de certaines dictatures ont changé. On s'est mis à enlever les gens, à les faire disparaître. On s'est mis à s'en prendre, non plus à des personnes en direct, mais à tous ceux qui les défendaient. Tout le travail que, petit à petit, ensuite, a amené Amnesty à prendre en compte. Donc tout un travail, notamment, justement, sur ces nouvelles formes de violations, des campagnes dans les années 90 sur les disparitions forcées, par exemple, des campagnes ensuite de plus en plus fortes, non pas en dénonciation, mais aussi en termes de protection, tout autour des défenseurs des droits humains. Donc protégeons les défenseurs pour qu'eux-mêmes puissent protéger dans leur propre pays d'autres personnes, puissent exercer finalement ce que nous, membres d'Amnesty, faisons en France en toute tranquillité et bien heureusement. D'autres, ce même travail-là, ne peuvent pas le faire dans les mêmes conditions. Donc petit à petit, Amnesty s'est trouvé à travailler sur ce type de situation-là qui était bien différente, puisqu'on ne parlait plus là de prisonniers d'opinion, on parlait de gens qui n'étaient pas arrêtés, qui étaient juste harcelés, inquiétés, menacés. Parfois pire, bien entendu, mais on était vraiment sur des dynamiques très différentes. Donc il y a vraiment cette double évolution qui fait que, petit à petit, Amnesty s'est trouvé dans la situation d'être confronté à d'autres réalités également que la réalité des droits civils et politiques. Parce que derrière le combat de ces défenseurs des droits humains, se trouvaient d'autres enjeux aussi. Amnesty s'est trouvé à défendre des syndicalistes qui défendaient le droit des paysans sans terre, par exemple en Brésil, et d'autres situations comme ça qui, petit à petit, venaient aussi interroger la thématique des droits économiques, sociaux et culturels. Et petit à petit, donc, Amnesty s'est trouvé à élargir son champ d'intervention, jusqu'alors principalement centré sur les droits civils et politiques, pour incorporer de plus en plus les droits économiques, sociaux, culturels, jusqu'à un moment de bascule au début des années 2000, où là, Amnesty a décidé de prendre en compte, dans son travail de dénonciation, et au-delà du travail de promotion de l'ensemble des droits que nous faisions jusqu'alors, donc de travailler en dénonciation également sur les droits économiques, sociaux, culturels. Sur une raison toute simple, c'est qu'on ne peut pas faire de distinction entre les catégories de droits. Amnesty ne fait pas de catégorie de droits de toute façon. On considère qu'il y a des droits humains au sens large, tels que décrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces droits-là sont interdépendants, sont indivisibles, et qu'il est impossible finalement de considérer que l'un ou l'autre de ces droits sont supérieurs aux autres. Et a fortiori, non, les droits civils et politiques ne sont pas supérieurs aux droits économiques, sociaux et culturels, et vice-versa d'ailleurs. Donc ce qui vraiment nous a amené à évoluer par rapport à ça, et en rebondissant, c'est là où Amnesty aussi rejoint les évolutions de géopolitique, les évolutions au niveau international, où justement ce constat-là se fait, et ce tournant se fait en même temps que les grands tournants de la géopolitique mondiale de la fin des années 90, au courant des années 90. Ce qui amène du coup Amnesty à se poser ces constats-là, ce qui amène Amnesty à se lancer dans cette campagne exigeant la dignité, justement en mettant en avant la question de l'interdépendance des droits et l'universalité des droits. Pour reprendre une image, c'est un peu une question des dominos pour illustrer l'interdépendance des droits. C'est-à-dire que vous supprimez un droit, dans sa chute, il va en entraîner d'autres. Et c'est bien ça qui est en jeu à travers cette campagne-là. Pour ceux qui ont vu l'exposition, c'est vraiment ça que l'on peut voir dans ces images, dans les récits qui accompagnent ces images-là. C'est-à-dire que vous supprimez à quelqu'un un logement, c'est pas juste son droit au logement qui est atteint, mais c'est toute une autre batterie de droits qui, petit à petit, plus ou moins rapidement, tombe à la suite. Supprimer un logement à une famille, comment cette famille-là va faire pour inscrire ses enfants à l'école ? Comment les parents vont faire pour aller au travail, pour accéder aux soins, etc. etc. Et il se trouve dans de nombreux pays, les personnes qui ensuite revendiquent ces droits-là, ces droits simples qui nous semblent si évidents ici, finalement, on leur supprime la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de manifester pour revendiquer ces droits-là. Et là, on retombe dans une dynamique de violation des droits civils et politiques, au final. Donc c'est l'ensemble de ce constat-là qui pose pour nous la problématique de la dignité et de la pauvreté. En quelque sorte, selon la vision d'Amnesty, la dignité est au final le dernier rempart opposable aux personnes. C'est vraiment tout le socle et le rempart ultime pour une personne. C'est vraiment là où on ne peut pas aller, sinon vraiment tout s'effondre. Et c'est sur cette base-là que nous transformons non pas ça en tant que droit, mais en tant qu'exigence. Exigeons la dignité. C'est vraiment le thème de la campagne, le slogan de la campagne et l'accroche de cette campagne-là. C'est transformons quelque chose qui nous semble un peu éthéré, un peu lointain, en une exigence forte. Quelque chose qui n'est pas négociable, qui n'est pas quelque chose qui est l'objet de charité. On ne fait pas l'aumône là-dessus. C'est vraiment quelque chose d'intangible, certes, mais quelque chose qu'on ne peut pas supprimer à une personne. Et de cette base-là, de se projeter pour revendiquer l'ensemble des droits et reconquérir l'ensemble des droits. Ce constat-là fait, ensuite, on regarde autour de nous et on se rend bien compte que nous, Amnesty, lançant cette campagne en 2009, finalement, personne n'a attendu pour se battre pour ça, à commencer par les gens sur le terrain. Et on le voit très bien aussi encore dans cette exposition. Je vais faire beaucoup de pub pour l'exposition. Mais on le voit très bien, c'est-à-dire que les gens se tiennent droit face aux objectifs des appareils photo, se tiennent debout. Il y a des récits aussi qui accompagnent l'exposition dans un livre, des témoignages très forts qui expliquent que finalement les gens au quotidien ils se battent, ils n'attendent pas après Amnesty pour se battre. Certains ne connaissaient même pas Amnesty avant ces reportages-là ou avant qu'Amnesty agisse là-dessus. Néanmoins, il y a la conscience que leur dignité, ce rempart ultime est atteint et que là c'est intolérable, que c'est plus possible de continuer comme ça et que là il faut se battre contre vent et marée. Et puis petit à petit, dans ce combat-là, se rendent compte qu'ils sont bien seuls. Et c'est là justement la démarche d'Amnesty, c'est d'arriver sur ce terrain-là, de dire bah oui, voilà, effectivement, vous ne nous avez pas attendus. Alors soit ce sont des mobilisations individuelles ou collectives dans des quartiers, des villes, puis parfois c'est avec l'appui d'ONG locales. Et tout notre propos là-dessus, c'est de venir accompagner ce mouvement-là et de servir de caisse de résonance pour faire connaître la situation. Et puis finalement, petit à petit, d'expliquer sur le terrain que ben, ce sentiment d'atteinte à la dignité ben, correspond à des violations des droits. Et qu'ensuite, on peut travailler sur ces droits-là, puisqu'ils sont édictés par des textes forts, que beaucoup d'États ont signés au sein de divers pactes, et que finalement, ces États-là peuvent être tenus comme responsables. Le socle de fonctionnement de ces textes-là des Nations Unies, la DUDH, repose sur trois axes très simples. Un État doit protéger sa population, un État doit respecter les droits, et un État doit tout mettre en œuvre, pour tout faire pour mettre en œuvre ces droits-là. Et donc vraiment, nous, c'est sur ces principes-là, très simples, que l'on travaille, qu'Amnesty travaille sur la base du droit, et que dénonce des situations, et nous dénonçons des situations, et finalement, nous parvenons à mettre la pression sur les États qui ne mettent pas en œuvre ces droits-là, ou les nient, les bafouent, ou les refusent. Et au final, ça permet de déconstruire certains schémas. Et quand on parle, nous, de dignité, puis de pauvreté, de travail sur les questions de pauvreté, d'extrême pauvreté, effectivement, on a cité la question de l'exclusion, où vraiment, il y a tout un travail très, très important qui est fait notamment par ATD Carmonde, justement, qui fait le lien sur l'extrême pauvreté, la dignité, et reprend finalement beaucoup de ces éléments-là en disant, bah voilà, le socle pour la lutte contre la pauvreté et la dignité, au final, que chaque personne, y compris dans l'extrême pauvreté, on ne peut pas lui aliéner sa dignité. Donc nous, on se retrouve très en phase là-dessus, et quelque part, le constat qu'on fait autour de ces dynamiques de pauvreté, c'est vraiment le constat de la violation des droits. Vous l'avez entendu comme moi, dans l'exposé qui a été fait sur toutes les questions de pauvreté, à aucun moment on a parlé d'argent. À aucun moment on a parlé de développement économique. Or, souvent, dans les programmes de lutte contre la pauvreté, que ce soit des programmes nationaux ou des programmes internationaux, on met tout le temps en avant la question de l'aide financière, du développement économique, que sans croissance économique, on ne peut pas lutter contre la pauvreté. Mais vous écoutez un peu les gens qui vivent ça au quotidien, personne ne demande l'aumône, par contre, tout le monde demande le respect de sa dignité, tout le monde demande le respect des droits. Et c'est vraiment là-dessus que nous, on travaille, c'est de dire, notre axe principal, c'est de dire qu'une lutte efficace contre la pauvreté ne repose pas que sur le développement économique. Ça peut aider, mais ce n'est pas une solution toute faite et une solution idéale. Tout simplement parce que la lutte contre la pauvreté et l'atteinte à la dignité des personnes reposent sur une kyrielle de violations des droits. Et tant qu'on ne résout pas ou ne se pose pas la question de ces violations des droits et de les identifier et de les résoudre peu à peu, une à une, il n'y aura pas de solution immédiate. En tout cas, certainement pas à coup d'argent. Et donc voilà, c'est toutes ces démarches-là que l'on retrouve dans notre travail autour de différentes thématiques, travail sur les questions de bidonville, travail sur la question de l'accès aux soins, en particulier pour les femmes, travail sur les acteurs économiques également, et puis travail sur tout ce qui est la justiciabilité de ces droits économiques, sociaux et culturels, qui est une vraie construction, je l'ai dit tout à l'heure. L'évolution historique fait que les droits économiques, sociaux et culturels ont été complètement laissés pour compte pendant très longtemps, ce qui fait qu'il y a un outillage, entre guillemets, juridique au niveau des éléments de rendre compte des États qu'il y existe sur la torture en particulier, par exemple, où il y a un très bon appareillage qui n'existe pas sur les droits économiques, sociaux, culturels. Donc là, c'est un grand pan de notre travail. Mais tout ce travail-là s'articule vraiment sur cette notion fondamentale qu'une multitude de violations piège des gens, piège des centaines de milliers, voire de millions, plutôt de millions de personnes dans la pauvreté. Et c'est là, au final, que la boucle est, entre guillemets, bouclée. Amnesty est né autour de la notion de tout faire pour libérer les prisonniers d'opinion. Et là, on est dans une dynamique où on essaie de tout faire pour libérer les prisonniers de la pauvreté. C'est vraiment la raison d'être et la clé de voûte du travail sur cette campagne-là, travail que nous menons depuis maintenant 2009. et qui voilà, petit à petit porte ses fruits, ou qui se fait avec beaucoup d'autres organisations sur le terrain dans beaucoup, beaucoup de pays. Voilà pour cette première présentation. Maintenant, je pense que ça va être à vous de travailler un peu. Il y a un micro dans la salle.
Oui, au-delà de l'affirmation juridique qui reste un préalable, j'ai le sentiment que la dignité et son respect appellent à une véritable éthique, à une morale d'action, et que c'est ça qui est le plus intéressant dans tous les lieux institutionnels d'aide aux personnes, de prise en charge, que ce soit dans les prisons, dans les EHPAD. Si ce respect de la dignité n'est pas un chantier ouvert pour les personnes qui ont à le respecter, sa portée sera limitée. Par contre, pour y avoir participé, c'est vraiment quelque chose qui fait évoluer très fortement les professionnels et même certainement les bénévoles lorsqu'ils ont vraiment réfléchi à cette question et qu'ils ont un petit peu délimité les éléments que prenaient ici et maintenant dans leur lieu d'exercice ce que voulait dire le respect de la dignité. Et je pense qu'on est loin de ce travail, en particulier avec les étrangers, les immigrés, que ce soit dans les lieux institutionnels d'État ou dans les autres lieux qui sont chargés de les accueillir ou de les retenir.
On va se partager les réponses. Je pense qu'il y a tout cela, ça peut avancer quand on couple avec tout un travail d'éducation, et là je dirais vraiment de l'éducation au sens snob, pas du matraquage, mais vraiment de l'éducation et de l'information sur les droits aussi, qui permet justement aux personnes qui sont en but à des situations comme celle-là. Typiquement, voilà. Enfin, je sais que sur la question des étrangers, des demandeurs d'asile, par exemple, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, notamment des travaux sociologiques assez intéressants sur le pouvoir des personnes au guichet, qui s'octroient des zones d'influence ou de prise de décision qui dépassent tout ce qu'ils peuvent, qu'ils sont en droit de faire, en fait. Et tout cela ne fonctionne qu'à partir du moment où, en face, la personne qui s'adresse à ces gens-là n'a pas connaissance de ses droits. Et là, après, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles des personnes n'ont pas connaissance de leurs droits. C'est parce que ce sont des étrangers, donc ils n'ont pas la connaissance technique ou de la langue et donc l'accès à l'information, ou alors tout simplement parce que les rencontres ne sont pas faites. Des gens qui vivent dans des situations d'extrême pauvreté ou d'exclusion n'ont juste pas le temps matériel de s'occuper de ce genre de choses. Quand on lutte pour la survie, 95%, 99% de son temps est voué et dédié à la survie dans diverses situations. Et on peut mettre là-dedans des clandestins qui se battent au quotidien pour essayer de manger, de survivre, y compris en France. Et à partir du moment où toute l'énergie est absorbée par ça, il n'y a pas de temps superflu, entre guillemets, qu'on peut allouer à connaître les droits, se renseigner, lire, etc. Donc, quand je parle d'éducation, c'est vraiment tout un travail d'accompagnement de cela, d'information, de diffusion de l'information partout où c'est possible, et aussi de prise de conscience, comme ici, comme chacun, même si je pense que là, il y a une bonne base de départ en termes de prise de conscience, mais de savoir quels sont les droits et comment on peut ensuite les rendre opérants et les faire connaître autour de soi.
Oui, moi je dirais sur cette question que tout d'abord il y a une évolution quand même. Il y a une évolution et cette évolution, comme par hasard, elle démarre à peu près vers 1995, où la question de la dignité, mais aussi vous évoquez l'éthique, sont des questions que l'on évoquera peut-être plus d'ailleurs dans le domaine médical. Bon. Et c'est vrai que là on voit apparaître un certain nombre de textes qui nous parlent de dignité. Le problème, faut-il encore que ces textes soient, j'allais dire, connus, oui, ils sont connus, mais ils soient intégrés par ceux qui sont en charge de leur application. Et ça, ce n'est pas toujours le cas, parce que dans une administration, j'allais dire napoléonienne, mais en réalité elle est beaucoup plus ancienne, parce que ces méthodes, ça date de Philippe le Bel, peut-être, on avait une administration qui, de toute façon, avait raison. Et le citoyen, ou l'administré plutôt, il n'avait qu'à exécuter. Alors, quand vous évoquez cette question, vous évoquez la question des étrangers. Je serais tenté de vous dire que la question, elle se pose pas seulement pour les étrangers, elle se pose pour le citoyen français. Alors, c'est vrai que le citoyen français, il n'a pas de problème, puisque nul n'est censé ignorer la loi, et donc que le français, bien évidemment, par définition, connaît toutes les lois, et donc sait absolument quels sont ses droits. Ce que l'on remarque, c'est que parfois, peut-être très intéressant, face à une administration, de jouer un petit peu au bluff. Et ça marche. Qu'il y a quelques textes, je serais tenté de dire, fondamentaux, qui peuvent être passe-partout et qu'on peut utiliser. Je prendrai juste une anecdote. Un jour, j'avais besoin de renseignements et je vais à la préfecture et puis je dis, voilà, j'ai besoin de ce type de renseignements. Et on me dit, mais monsieur, non, c'est pas possible. Je dis, je suis désolé, la loi sur la communication des documents administratifs vous oblige à me les fournir. Déjà, ça ne plaisait pas beaucoup. Réaction immédiate, attendez. Autrement dit, il a disparu, il est parti dans le bureau qui était derrière, et il est revenu et il m'a dit, bon, écoutez, exceptionnellement, on va vous donner ces documents. Je lui dis, je suis désolé. Ce n'est pas à titre exceptionnel, c'est prévu par la loi. Donc j'ai eu mes renseignements, la personne donc est revenue et elle me dit, voilà, vous pouvez les consulter. Je dis d'accord, est-ce que je pourrais avoir une photocopie? Bien sûr, là le ton changeait. Et je lui dis, quand elle revient, combien vous dois-je? Et la personne me dit, oh ben non, vous ne devez rien. Je dis, je suis désolé, mais la loi sur la communication des documents administratifs vous autorise à me facturer la photocopie. Je ne sais pas si le gars s'est suicidé dans la soirée, mais ça veut dire qu'en effet, dès qu'on sent que l'on a affaire à quelqu'un qui connaît le droit, on est en situation de force. Ce qui veut dire que notamment pour les étrangers, bon déjà pour les Français, c'est utile, bien entendu, mais pour les étrangers, eh bien, ils ont intérêt, quand ils font leur démarche, à être accompagnés par un Français. Et là, ça change bien évidemment beaucoup de choses. Et au contraire, on a un accueil qui souvent est très chaleureux. Ben, moi, je ne sais pas. J'ai eu là des expériences récentes qui étaient intéressantes, mais il ne faut pas désespérer. Mais ça montre bien, en effet, qu'il y a intérêt à cela. Vous savez, dès que l'on commence à évoquer un contentieux possible, une administration n'aime pas. Parce que pour la notation du fonctionnaire, ce n'est pas une bonne chose. Donc, et je vous dis, parfois, moi, il m'est arrivé de bluffer, de dire, voilà, là-dessus, vous êtes tenu, alors que le fonctionnaire n'était pas tenu. Mais quand vous le dites avec aplomb, ça marche. Mais il n'en reste pas moins que l'étranger se trouve, bien entendu, l'étranger ou bien celui qui est dans une situation économique difficile et dans une situation défavorable, bien évidemment. Ça va de soi. Et ne parlons pas aussi de la discrimination qui existe entre celui qui habite Poitiers, bon, qui pourra aller facilement dans une administration, et celui qui va habiter les Trois-Boutiers ou Lussac-les-Châteaux, qui, lui, est obligé de venir à Poitiers. Et bien entendu, quand il arrive, ah ben non, cet après-midi-là, le service n'est pas ouvert.
Est-ce que la notion de dignité est abordée dans les cursus aussi bien universitaires que les écoles type ENM, Sciences Po, ENA par exemple?
Oui, là, incontestablement, parce que d'abord, si on prend après tout les études juridiques, le cours de, je dirais le cours de première année en droit constitutionnel, on évoque maintenant les droits fondamentaux, ou bien il y a des cours de contentieux constitutionnels où on évoque également la décision de 94 que j'évoquais, et puis le cours de ce que l'on appelle toujours liberté publique, on est amené à évoquer ces droits-là. Et puis beaucoup d'autres à l'ENM, bien évidemment. Les magistrats ont une formation qui, en France, est une formation sérieuse et qui, bien entendu, porte sur ces questions. Ils ont plutôt même intérêt à la connaître. Le problème, il n'est pas là. Pour moi, le problème, il est beaucoup plus en amont. C'est-à-dire, c'est le problème, en France, de l'éducation civique, qui est un secteur sinistré. C'est un secteur sinistré parce que ce n'est pas enseigné comme une matière, je dirais, véritablement autonome. C'est toujours un prof qui enseigne une autre matière et pour qui c'est quand même une occasion en or de pouvoir rattraper un cours qu'il n'a pas pu faire dans ce qui est au programme du bac. Bon. Moi, je dois dire que je n'ai pas gardé un souvenir impérissable de ce que l'on appelait l'instruction civique quand j'étais potache. Je prendrai un autre pays comme l'Allemagne. J'ai eu l'occasion d'assister en Allemagne à des cours dans les lycées. Il y avait des cours de Staatskunde, par exemple. Et là, véritablement, les élèves, ils avaient de véritables manuels. Vous comprendrez qu'en Allemagne, article 1er de la loi fondamentale, le droit à la dignité, etc., vous comprendrez que l'Allemagne est très peu condamnée à la cour de Strasbourg, et qu'en Europe, c'est certainement le pays dans lequel les droits fondamentaux sont les mieux protégés. C'est tout. La question, on retrouve encore la question de l'éducation, et après tout, cette question, tout à l'heure j'évoquais l'idée que la question de la dignité doit être dans l'éducation, eh bien, ça veut dire que nous n'appliquons pas les textes. Mais il y a là, dans tout ce qui est, je dirais, formation spécialisée, non, ça c'est tout à fait logique. Et même quand vous prenez tout ce qui est le domaine médical, maintenant, les questions d'éthique sont des questions qui sont quand même, qui ont une place tout à fait différente de ce que cela pouvait avoir il y a des décennies. Hein. Mais quand il s'agit d'une formation générale du citoyen, là, non. C'est totalement absent. Alors, le droit à la dignité, bien sûr, mais aussi tous les autres droits, ça va de soi. D'ailleurs, c'est assez simple. Sous la Troisième République, on affichait dans les écoles la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'était très intelligent, puisque c'était inopposable devant un tribunal. Donc, apprenez-la par cœur. De toute façon, le jour où vous irez devant un tribunal, vous ne pourrez pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'on a fait ? Sous la Quatrième République, c'est devenu opposable. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'on ne peut pas utiliser devant un tribunal. Et le jour où on pourra utiliser la Déclaration universelle des droits de l'homme, on valorisera encore sans doute un texte qu'on ne pourra pas utiliser.
Je dirais, c'est là où les militants des droits humains, enfin Amnesty, la LDH, etc., ont un vrai rôle à jouer et un rôle super important en termes d'intervention d'éducation aux droits humains, de sensibilisation aux droits humains dans les écoles au sens large, dans aussi les cycles de formation. Je pense, tout à l'heure, j'évoquais rapidement la question de l'accès aux soins, etc. On parlait de la dignité dans le milieu médical. Voilà, les instituts de formation d'infirmières, par exemple, ou les écoles de médecine peuvent être aussi des lieux où on vient parler de droits humains parce qu'au final, ces questions de dignité, de citoyenneté concernent tout le monde, peu importe les professions. Donc là, oui, effectivement, il y a matière à intervention. Et après, les grandes écoles, c'est vrai que nous, à Amnesty, on peut les cibler, on peut faire des interventions, à l'ENA en particulier, où on a des cycles d'intervention très réguliers auprès de l'ENA, notamment tout ce qui est formation de l'élite entre guillemets étrangère. Il y a des cycles de formation de l'ENA sur plusieurs mois où vous avez la fine fleur de la Cour suprême de tel ou tel pays, des ministères de tel ou tel pays qui viennent en formation en France. Et l'ENA a intégré tout un cycle où il y a des possibilités pour les organisations telles qu'Amnesty d'intervenir sur des demi-journées entières pour justement apporter ces éléments-là. Donc nous, bien sûr, on ne s'en prive pas pour le faire. Mais c'est aussi après, à d'autres niveaux, en tant que nous, citoyens, militants, etc., de réfléchir à des moyens d'intervention pour faire porter ça aussi.
Je profite d'avoir le micro pour poser deux questions. La première, qui est directement en lien avec le sanitaire, comme vous venez d'en parler, comment Amnesty se situe par rapport au droit à mourir dans la dignité ? Et puis la deuxième question que j'aurais posée concerne les prisonniers administratifs palestiniens en Israël et comment Amnesty se positionne et progresse.
Alors, il y a un truc qui m'épate toujours, en fait, notamment aux émissions télé, quand on voit des gens intervenir sur plein de sujets et qui répondent super doctement, de façon très experte, sur tout sujet possible, imaginable. C'est pas mon cas. je suis un peu plus ciblé. Voilà, moi, j'ai pas de fiche non plus. Non, sur la question de mourir sur la dignité, là, ça fait pas partie du tout du champ d'intervention d'Amnesty. Pour l'instant, j'y mets ça sous réserve. Pourquoi pas un jour, je ne sais pas. Je ne peux pas en juger, en tout cas. Moi, je ne suis pas habilité à le faire. Donc, pour l'instant, ça ne fait pas du tout partie du champ d'intervention. Après, ça pose des vraies questions. Et peut-être qu'à terme, ça amènera Amnesty à se poser aussi la question. Est-ce que c'est dans le champ d'intervention ou pas d'Amnesty ? En l'état des choses actuellement, sur la mission que se donne Amnesty, ça ne rentre pas dans le champ. Pour ce qui est, alors je connais un tout petit peu, mais de loin, mais sur la question des prisonniers administratifs, oui, je pense que, enfin, il y a pas mal de choses dans les rapports annuels d'Amnesty. Il y a des choses qui se font quand même, des mobilisations qui se font, y compris par Amnesty en Israël, qui suit des cas, qui travaille dans des conditions pas forcément très simples, parce qu'être militant d'Amnesty en Israël, c'est pas forcément bien vécu. Bien vu en tout cas, enfin, difficile à vivre pour eux et pas bien vu pour le reste de la société, à commencer par les pouvoirs publics israéliens. Néanmoins, ce travail, il y a des suivis qui se font et même si voilà, les progrès peuvent tarder à venir, il y a quand même un suivi qui se fait sur les situations. Après, sur d'autres échelles, tout le souci que nous avons, nous, à Amnesty, c'est qu'on a beau être très connu, on a beau être prix Nobel de la paix, être implanté dans beaucoup de pays du monde, on n'a pas forcément des moyens à la hauteur des États contre lesquels on se dresse. Et donc, ça demande beaucoup de ressources de faire des investigations complètes sur tous les sujets. Et donc, des fois, il y a des choix qui font qu'on fait passer des priorités. Mais ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse des situations loin de là. C'est la meilleure réponse que je puisse avoir. Je suis désolé.
Oui, sur la première question, je dirais que là, on retrouve en réalité un des problèmes qui serait celui de la définition du droit à la dignité, parce que quand vous regardez les débats sur cette question, vous constatez que ceux qui sont favorables au droit à mourir dans la dignité invoquent le droit à la dignité, mais que ceux qui sont hostiles également invoquent également un droit à la dignité. Et ça, ce n'est pas spécifique à cette question. C'est un débat que l'on rencontre, en effet, de façon extrêmement fréquente. Tout à l'heure, j'évoquais le lancer de nains. Eh bien, le lancer de nains, on retrouvait ce débat entre M. Wackenheim qui disait « Mais moi, ça m'a permis de sortir du chômage et donc de retrouver ma dignité ». Et puis l'arrêté municipal qui interdit au nom de la dignité. Donc on est toujours en recherche sur cette question.
Oui, moi je voudrais ajouter pour les prisonniers palestiniens, dans le rapport annuel, il y a la position d'Amnesty sur les violations des droits humains dans chaque pays, finalement. Donc la position, on peut la connaître facilement par ce rapport.
Mmh.
on ne nous entend pas, alors peut-être qu'on voudrait entendre ce que vous disiez, peut-être.
Non, non,
ça peut
intéresser. Bon, je disais qu'on a, toujours fait une intervention vis-à-vis de l'État d'Israël contre la détention administrative, qui est une détention arbitraire des prisonniers, sans chef d'inculpation, sans jugement, sans limite d'incarcération. Et c'est vraiment... Amnesty International s'est toujours battu contre ce hors-la-loi judiciaire de détention des gens, des prisonniers.
Alors moi, je suis aussi une ancienne militante d'Amnesty. Donc il y a deux points qui m'interrogent sur cette prise en compte des problèmes sociaux et politiques. C'est quid de notre indépendance par rapport aux partis politiques ? Est-ce que ça ne nous oblige pas à un moment de prendre position de façon... sur les médias, enfin, qu'on se détermine. Et puis, on souhaitait aussi, enfin, on nous demandait plutôt d'intervenir dans les autres pays pour des soucis d'impartialité. Là, il me semble qu'on a à intervenir, notamment au niveau des problèmes de Rome, et peut-être aussi pour d'autres types de populations dans notre propre pays. Donc, comment on va se déterminer par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'il y aurait de notre impartialité ? Et est-ce qu'on va... être amené à se prononcer plus par un parti politique que pour un autre, ce qui me paraîtrait peut-être important pour les droits sociaux et économiques.
Par rapport à la question des partis politiques, en fait, nous, notre feuille de route, c'est pas la politique, ça va être le droit. Et à partir de là, c'est ça qui nous dicte, qui dicte en fait, finalement nos revendications et nos constats. Pas une posture idéologique ou une posture politique. C'est pour ça d'ailleurs que nous on n'a jamais fait quand bien même la mission ou le mandat d'Amnesty n'avait pas encore évolué, on avait toujours travaillé sur la promotion de l'ensemble des droits tels qu'il est dicté dans la DIDH. Après il y a eu l'évolution sur la prise en compte des droits économiques, sociaux, culturels dans le travail de dénonciation dans un second temps, mais à la base Amnesty ne faisait pas la différence sur l'ensemble des droits, donc on se base bien sur ce socle de droits. Et le fait de ne pas faire la différence, fait qu'on n'a pas reproduit non plus le clivage idéologique que je décrivais très rapidement tout à l'heure, de la guerre froide, en disant les droits économiques, socio-culturels sont plus importants, non, les DCP sont plus importants, etc. Nous, on a toujours considéré que finalement, les droits étaient universels. Et puis bon, après, ça s'est approfondi en termes de prise en compte dans notre travail. Donc au final, notre point de référence, c'est la DUDH. Pas des lignes politiques de différents partis. Après, il y a des partis qu'on gêne plus ou moins, certains plus que d'autres, certains avec qui on peut dialoguer, d'autres avec qui on ne dialogue pas du tout. Mais en tout état de cause, dans ces dialogues-là, de toute façon, voilà, on a un gouvernement qui peut changer, qui évolue en fonction des élections. Et nous, on ne considère pas le gouvernement français en tant que... émanation d'un parti politique, mais en tant qu'institution. Donc on a ce rapport-là aussi par rapport à des institutions sur le gouvernement ou même des autorités municipales. C'est les institutions à qui on va parler, c'est pas un représentant de parti. Et après, on peut être amené à interpeller des candidats à des élections diverses, particulièrement sur les présidentielles. On a pris l'habitude d'interpeller l'ensemble des candidats, mais on s'adresse à tous les candidats. Il n'y a pas de dialogue privilégié. On cible tous les candidats. Après, il y en a qui répondent, il y en a qui répondent pas. Je vous laisse deviner lesquels. Mais c'est pas parce qu'on ne s'adresse qu'à un certain nombre de candidats qu'il y a qu'avec eux que l'on discute. Donc à partir de là, nous, il n'y a pas de parti pris. Alors après, bien sûr, nos détracteurs peuvent très bien dire vous êtes d'obédience, tel côté, etc. Mais finalement, c'est toujours des remarques qui ont pu être faites à Amnesty. Y compris avant, au moment de la guerre froide. Enfin, moi, j'ai commencé militant d'Amnesty il y a bien longtemps de ça, où c'était encore la guerre froide. Post-guerre froide, mais de peu. Et on nous faisait des reproches. Vous roulez pour la CIA ou vous roulez pour le Bloc de l'Est, indifféremment. Et au final, quand on arrive à fédérer ou quand des parlementaires suivent certaines de nos activités ou commentent, ça nous arrive régulièrement d'envoyer à l'ensemble des parlementaires certains rapports, certains documents, le rapport d'activité d'Amnesty, le rapport annuel, on envoie ça à tous ces gens-là, on a des soutiens qui viennent de tous les partis. vraiment très franchement. On peut avoir des actions d'interpellation de députés en demandant aux députés, en disant voilà, il y a telle violation qui est commise, la France peut jouer un rôle parce qu'elle a des liens privilégiés avec tel ou tel pays. On s'adresse à l'ensemble des députés et c'est arrivé sur des actions. On avait autant de députés de droite que de gauche qui suivaient ça parce que c'est une question de droit et que ces gens-là font fi des clivages politiques, font fi de l'idéologie pour se baser sur le droit et la dénonciation que l'on avance pour finalement suivre et reprendre, où certains d'eux-mêmes posent des questions au gouvernement régulièrement en réagissant par rapport à des lettres qu'on peut envoyer ou alors à des rapports qu'on publie sans même qu'on leur envoie directement. Donc on a vraiment toujours le soin de ne pas suivre une ligne politique quand bien même on travaille sur la France. Par rapport au travail spécifique sur la France, effectivement, les règles d'engagement du travail d'Amnesty ont pu évoluer. Avant, il y avait une règle intangible qui faisait qu'une section d'Amnesty ne travaillait pas sur son propre pays et ne menait pas de recherche sur son propre pays. Cette règle-là, elle a évolué dans la mesure où il est possible maintenant à des sections d'Amnesty, par exemple Amnesty France, de conduire une recherche sur son propre pays. Historiquement, depuis que c'est possible, Amnesty France l'a fait qu'une seule fois sur un rapport sur les violences faites aux femmes. Donc déjà, enfin voilà, c'est pas la porte ouverte à n'importe quoi. Ça a été fait de façon très encadrée et vraiment très ponctuelle. Mais ces activités de recherche-là ne suivent exactement les mêmes principes, les mêmes règles de recherche, de recoupement des informations, d'interrogation portées sur les violations, en suivant toujours comme grille d'analyse les violations, les engagements internationaux de la France, etc. Donc ce n'est pas parce qu'Amnesty France peut mener une recherche qu'elle va se mettre à faire n'importe quel type de recherche sur n'importe quel droit, de n'importe quelle façon. Il y a vraiment des règles très strictes qui ont été mises en place par le secrétariat international d'Amnesty et qui, en tout état de cause, valide, avant même que toute recherche commence, un projet de recherche d'une section sur son propre pays. Donc une section ne peut pas faire une recherche comme ça. Et après, sur le fait qu'on peut être amené à interpeller des autorités françaises, quelles qu'elles soient, sur des violations constatées en France, type... dernièrement, on travaille beaucoup sur les questions d'expulsion forcée par rapport aux Roms. On le fait sur la base d'une recherche qui a été menée par le secrétariat international d'Amnesty, avec le même scrupule, intellectuel, que des équipes de recherche opèrent pour l'Espagne, pour d'autres pays partout dans le monde. C'est le même type de fonctionnement, les mêmes équipes qui peuvent être amenées à travailler sur différents pays, dont la France. Et après, nous, au final, militants ou membres d'Amnesty International France, on met en œuvre nos actions sur la France de la même façon qu'on travaillerait sur la Chine ou qu'on travaille sur l'Ouzbékistan, par exemple. Ça suit les mêmes règles, les mêmes principes et les mêmes démarches, les mêmes questionnements et la même dénonciation de violations des droits humains, quel que soit le pays au final.
Oui, moi je voudrais poser une question sur la dépénalisation de la prostitution. Quelle est la position d'Amnesty, la recherche actuelle, position délicate?
Il n'y en a pas. Il n'y a pas de position. Enfin, c'est une discussion, justement, on parlait de la question de la dignité, de la fin de vie, des choses comme ça. Là, il peut y avoir des discussions internes à Amnesty par rapport à ça, mais il n'y a pas de position d'arrêter.
Oui, on a le même débat qu'à propos du droit de mourir dans la dignité. C'est-à-dire, vous avez ceux qui vont être pour la pénalisation, ceux qui vont être contre, et chacun souvent invoque le droit à la dignité.
Vous évoquiez le problème des Roms tout à l'heure. Vous avez une action aussi dans le Calaisie par rapport aux jungles ?
Par rapport à ?
Aux jungles.
Aux jungles ? Oui, il y en a eu pas mal. Alors pareil, je ne suis pas toujours... pas spécialiste sur la question non plus, mais oui, il y a eu beaucoup d'actions et on continue à avoir beaucoup d'actions. Les militants d'Amnesty là-bas dans le Calaisie sont très très actifs, très structurés sur ces questions-là, suivent beaucoup de situations, nous font remonter beaucoup d'informations sur lesquelles on n'intervient pas forcément, justement en raison de ces principes de recoupement des données, de la recherche, de la validation. Mais il y a un dialogue quasiment permanent, je dirais, vraiment, c'est très 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 fourni, très dense. avec eux, nous, le secrétariat national d'Amnesty France et le secrétariat international pour suivre des situations, etc. Ce qui peut amener ponctuellement le secrétariat international à émettre des communiqués de presse sur des situations, voire adresser des courriers, voire interpeller la France. Voilà, cycliquement, il y a des délégations qui viennent en France pour interroger les autorités françaises sur certains nombres de points, dont ceux-là, clairement. Ouais. Dans la méthode de travail d'Amnesty, il y a des choses visibles, enfin ce que vous pouvez voir sur des tables de presse, des pétitions, des choses comme ça. Et puis je dirais, il y a une partie invisible, pas parce qu'elle est occulte, mais juste parce que voilà, elle n'est pas visible localement, mais tout un travail de plaidoyer que nous menons en direction des autorités françaises, avec des rencontres très très régulières avec les ministères qui peuvent être impliqués sur des dossiers, avec des échanges, des dialogues. Alors des fois, c'est en fonction des personnes qui sont autour de la table, ça peut être des dialogues de sourds. Généralement, quand un gouvernement nous ouvre ses portes et on discute, ben, ça permet des avancées. Ce n'est pas toujours le cas, y compris en France, suivant les gouvernements. Mais voilà, nous, on a tout ce travail-là qui n'est pas forcément visible, pas spectaculaire, mais qui permet de garder des contacts et puis d'avoir des points de pression sur la France de différentes façons. C'est un travail qu'on ne fait pas seul non plus. Il y a énormément d'associations qui se mobilisent sur ce type de questions-là, dans la région de Calais, mais enfin, aussi sur d'autres situations similaires ailleurs. Et voilà, on essaye de travailler tous ensemble. En tout cas, en bonne intelligence, ça ne veut pas dire qu'on va signer des pétitions communes, des communiqués de presse en commun, parce qu'il y a toujours des questions de positionnement, justement, ou pareil. On rejoint la question sur les questions politiques. Certaines organisations sont beaucoup plus à l'aise sur des positionnements ou des déclarations très clairement politiques. Et nous, généralement, on ne signe pas des déclarations de ce type-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas ou qu'on ne travaille pas ensemble. On peut avoir des points de contact, des activités communes, sans pour autant signer des communiqués en commun. Mais ça se fait beaucoup, beaucoup dans la collaboration. Ouais. J'ai remarqué ce côté-là de la salle, on ne posait pas beaucoup de questions.
Oui, moi j'ajouterais une chose à cet égard, c'est que s'agissant de questions comme les Roms par exemple, il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites par des organisations internationales, je pense, Conseil de l'Europe, qui est malheureusement une organisation à laquelle on ne prête pas suffisamment d'attention et qui, dans le domaine de la protection des droits fondamentaux, a quand même un bilan qui est plus que positif, même si sur certains points on peut faire aussi des critiques. Or, ce qui est important de savoir, c'est bien entendu le fait que dans beaucoup d'organisations internationales qui font de tels travaux, Amnesty International est présent avec un statut, alors qui peut varier selon l'organisation interne, statut d'observateur, statut alors de première catégorie ou deuxième catégorie, par exemple à l'ONU. Bon, mais c'est tout à fait important parce que les pays n'aiment pas beaucoup être épinglés justement par le Conseil de l'Europe. Parce que là, on est quand même entre gens, j'allais dire, de bonne compagnie. On n'est qu'entre démocratie. Et quand on se fait épingler, eh ben, c'est parce qu'il y a eu sur ce point un certain nombre d'éléments qui ont été apportés pour précisément justifier ces critiques. Et certains de ces éléments sont apportés par les ONG qui peuvent siéger à titre d'observateur ou à titre de consultant, et notamment par Amnesty International, bien sûr.
Est-ce que vous pouvez nous citer quelques aboutissements positifs des actions qui sont menées par Amnesty International depuis le début de cette campagne 2009? Quelques exemples?
Qu'est-ce que c'est?
Il y en a quelques-uns quand même.
Oui, il y en a. Alors après, toute la complexité du travail d'Amnesty, c'est qu'on est plus sur la même temporalité. On travaille un peu en se plaçant sur un temps géologique limite. Enfin, ça... Les violations, c'est très rapide à commettre, c'est beaucoup plus long à redresser, quoi. Donc des situations compliquées vont mettre beaucoup plus de temps à se remettre en place. Non, ce qu'on constate principalement sur la question des expulsions forcées, qu'on peut voir dans l'exposition, c'est tout un travail qui se fait alors en prévention. On a mis en place, Amnesty a mis en place dans plusieurs pays dans le monde un réseau d'alerte, donc en suivant des situations dans certaines villes où on sait qu'il va y avoir des expulsions ou qu'il peut y avoir des expulsions, avec tout un maillage avec les associations locales, y compris à un niveau de ces quartiers-là, pour émettre des alertes à tout le réseau Amnesty dès que on a des vrais risques à 2-3 jours que des exécutions soient menées, y compris quand les bulldozers arrivent dans le quartier, qui souvent arrivent, en fait, ça se passe souvent comme ça. Et là, on met en branle tout un réseau sur plusieurs sections qui du coup, génère un gros mouvement de pression. Et ce réseau-là, sur 3 ans, a émis un peu moins d'une vingtaine d'alertes, et on a réussi à empêcher une douzaine d'expulsions. Quand je parle d'expulsions, l'échelle, on le voit notamment sur le reportage sur Lagos. On a beaucoup travaillé d'ailleurs sur le Nigeria. Quand on parle d'un quartier dans ce pays-là, c'est par centaines de milliers d'habitants que ça se chiffre. Donc quand il y a des expulsions dans des quartiers au Nigeria, c'est 10 000 personnes qui perdent leur maison. C'est pas juste une maison ou un logement qui est touché. Donc ça développe des mouvements très puissants qu'on arrive à bloquer ça, parce que ça sauve la mise pour vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Et après, sur le long terme, parce que là, c'est très court terme et en réactivité, il faut vraiment très, très rapide. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tout un travail de sensibilisation et de travail très fort avec les communautés, les représentants des communautés concernées, des ONG locales, y compris vraiment des micro-ONG, qui souvent sont très mal connues et ne sont pas reconnues par les autorités des pays concernés, quel qu'il soit, et le fait d'avoir l'ombrelle entre guillemets d'Amnesty permet des fois de lever des situations inextricables et de faire progresser les choses, de donner de l'assurance, de la confiance aux personnes qui sont impliquées là-dedans, qui se battent pour leurs propres droits, de dire oui, finalement c'est normal ce que je fais, c'est bien, et je suis reconnu par Amnesty, par l'opinion internationale. À ce titre-là, ça peut paraître un peu futile de dire la reconnaissance d'Amnesty ou l'appui d'Amnesty, mais ça joue vraiment sur des détails des fois pour faire basculer des situations. Je discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec une des personnes qui est à Londres, travaille sur la recherche sur le Nigeria, qui me disait que c'était très simple au Nigeria, c'est que quand il allait en mission sur le terrain, des fois ils appelaient les autorités, le gouverneur de l'État où il se trouvait, et c'était un des habitants du quartier qui l'appelait, et donc dans les bureaux du gouverneur, il voyait que c'était un numéro nigérian, il ne répondait pas à l'appel. Et lui prenait son portable, et c'était un numéro britannique qui s'affichait, et là l'appel était pris, et le rendez-vous était pris. Et il y allait tout seul. Enfin, les autorités pensaient qu'il allait aller tout seul. C'était Amnesty qui allait venir. Et puis finalement, il venait avec 5 autres représentants des quartiers et ils étaient obligés de discuter. Et puis petit à petit, c'est comme ça que ça monte aussi. Je parlais tout à l'heure également du travail qu'on fait sur les défenseurs. Dans cette campagne-là, il y a vraiment un gros volet très, très important de participation active. Je l'ai déjà un peu évoqué. C'est une campagne sur les droits économiques, sociaux et culturels qui est importante dans le sens où l'un de nos buts, c'est de mettre en avant des personnes qui se battent elles-mêmes pour leurs droits et sans que nous, on fasse les choses à leur place. Je l'ai dit aussi, on parle de droit, on ne parle pas de charité, on ne parle pas d'aumône. Et donc là, nous, on est dans une logique de mettre ça en avant et de donner les outils pour juste servir de caisse de résonance au final pour des enjeux. Et ça peut vraiment faire bouger les choses en termes de reconnaissance aussi locale. On a toujours au Nigeria, mais on l'a fait dans d'autres pays également. On a fait des grandes campagnes d'affichage, notamment sur la ville de Port Harcourt au Nigeria, où il y a beaucoup de questions d'expulsion forcée. Avec d'autres sections, on s'est cotisé et on a acheté des espaces publicitaires dans le réseau de bus de la ville. Et on a affiché des visages, des portraits d'habitants des bidonvilles, avec des portraits de militants d'Amnesty qui tenaient des pancartes avec les noms des quartiers ciblés par les expulsions forcées. Et en fait, ça fait beaucoup bouger les mentalités. En tout cas, ça fait en sorte que beaucoup de gens se sont interrogés. Parce que les voisins de ces quartiers-là considéraient que c'était normal qu'on expulse les habitants-là, que c'était tous des délinquants, que c'était logique qu'on les expulse, que de toute façon c'était pas intéressant, qu'ils n'avaient pas de droit, etc. Et ce type d'action-là, de mettre les portraits, de voir que des gens en France, en Suisse, en Angleterre, dans beaucoup de pays, portaient leurs revendications au même titre qu'eux, soutenaient leur lutte, ça a fait changer aussi le regard que d'autres personnes portaient sur les habitants de ces quartiers-là. Et donc il y a tout un travail à long terme qui se fait là-dessus et qui est très axé sur un travail, je dirais, en partenariat ou en appui de ce qui se fait localement. Donc ça porte des résultats, mais ça porte des résultats sur le plus long terme. C'est pas spectaculaire, mais c'est vraiment un travail de fond qui est important de faire. Après, sur d'autres thématiques, notamment, vous verrez à l'exposition à côté, il y a un reportage sur l'Inde, sur les questions d'industrie extractive et de pollution environnementale liées à l'exploitation de minerais de la bauxite, avec laquelle on fait l'aluminium, dans l'état d'Orissa, qui vraiment dévaste des régions entières. Et là, il y a un travail de plusieurs années qui s'est fait autour d'un rapport qui a été lancé d'ailleurs en 2009, en même temps que la campagne, qui dénonçait justement ces pollutions-là. Et là, il y a quelques temps de maintenant, la Cour suprême indienne a interdit l'exploitation de... Enfin, les activités que vous voyez dans le reportage-là ont été interdites depuis, notamment suite au rapport d'Amnesty ou à la mobilisation d'Amnesty. Il y a eu beaucoup de recours en justice, commencé par l'interdiction de l'extension de l'usine et des centres de traitement de minerais jusqu'à l'interdiction pure et simple de l'exploitation. Voilà, c'est des victoires qui voilà, petit à petit pèsent et permettent de faire remonter les responsabilités et d'étendre un peu le champ d'action aussi. Dans certains pays, tous les gens qui sont dans la salle peuvent être un défenseur ou une défenseuse. C'est tout simplement quelqu'un qui milite pour, dans une association, pas forcément quelqu'un qui a un statut de responsable. Ça peut même être hors association, finalement. Des gens, on a le cas dans beaucoup de pays autour de la question des expulsions forcées, des gens qui se bagarrent pour refuser la destruction pure et simple, sans concertation, sans offre de relogement, d'indemnisation, par exemple, de leur habitat. Le fait qu'ils se regroupent et qu'ils discutent et qu'ils revendiquent font d'eux des défenseurs de leurs droits. Donc voilà, c'est un peu un vocable qu'on nous donne comme ça. Ça désigne vraiment beaucoup de réalités, beaucoup de situations différentes. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir des statuts associatifs pour être considéré comme un défenseur. Mais voilà, on considère par défenseur des gens qui se battent pour la défense des droits ou de certains droits en fonction de l'objet de leur combat, de leur mobilisation. Dans différents pays, y compris en France. Il se trouve que dans certains pays, ils sont beaucoup plus exposés, beaucoup plus vulnérables qu'en France.
Je voudrais vous donner un gros mot, c'est le PIDESC, qui est aussi un résultat du travail d'Amnesty, entre autres, bien sûr.
Oui, tout à fait, c'est bien, je n'avais pas pensé. Qu'est-ce que le PIDESC ? C'est le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. C'est vraiment les droits dont nous avons parlé tout à l'heure, enfin, les deux piliers des deux grandes familles de droits de la DUDH, droits civils et politiques et droits économiques, sociaux et culturels, qui ont donné lieu à des pactes internationaux. Comme je l'ai dit déjà quelques fois, la guerre froide a fait que tout le développement des droits civils et politiques a pu se faire assez rapidement, même progressivement, mais en tout cas a pu se faire de façon assez étayée, alors que ce n'était pas le cas pour les DESC. Voilà, typiquement, aucun instrument n'existait encore il y a quelques temps pour rendre possible des recours en justice, ou en tout cas des dépôts de plaintes individuelles ou collectifs au niveau des Nations Unies sur des violations des droits économiques, sociaux et culturels. Ça existe sur les DCP, mais pas sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et donc c'est un travail que mène Amnesty depuis 2005, avant même qu'un protocole soit rédigé par les Nations Unies. Donc quand je parlais en termes de temps géologique, c'est vraiment la progression par sédimentation des activités d'Amnesty. Il a fallu tout d'abord se mobiliser pour que les Nations Unies ouvrent un groupe de travail pour rédiger un protocole additionnel à ce pacte-là, rendant possible ces recours en justice. Une fois que ce protocole était écrit, il fallait qu'il soit voté en Assemblée générale, qu'il soit adopté en Assemblée générale des Nations Unies. C'est pas une petite affaire, ça a été fait. Et puis après, il fallait que chaque État signe et ratifie ensuite le protocole. Et les institutions des Nations Unies sont ainsi faites qu'il faut un minimum de 10 ratifications pour qu'un instrument devienne opérable au sein des pays qui l'ont ratifié. Et puis après, chaque nouvelle ratification, ça devient opérable automatiquement dans le pays. On a passé la barre des 10 ratifications l'année dernière. Et là, nous, on a continué depuis tout ce temps-là tout un travail justement de pression vis-à-vis de la France pour que la France signe et ratifie le protocole. Il y a eu des difficultés de dialogue avec un certain autre précédent gouvernement. Il se trouve que depuis le changement, alors est-ce un hasard, je ne sais pas, mais en tout cas depuis récemment, la France a signé le protocole et là les pourparlers, enfin pas les pourparlers, mais le processus de ratification est en cours dans la mesure où un texte de loi a été présenté au Conseil des ministres la semaine dernière et devrait être présenté ensuite à l'Assemblée nationale pour discussion dans la commission des affaires étrangères. Puis après passer au Sénat pour enfin une adoption, une ratification par la France. Donc le processus suit son cours, ce qui veut dire qu'à partir du moment où la France ratifie, il sera possible, à partir du moment où l'État français n'émet pas de réserve sur cette possibilité-là, mais il serait possible pour que le comité des desks des Nations Unies puisse interpeller la France sur des situations et mettre en place des mécanismes d'enquête sur des violations des droits économiques, sociaux, culturels. Il serait possible également pour des ressortissants français de déposer des plaintes auprès de ce même comité, qui ne sont pas opposables en justice. Hein, il n'y a pas de sanctions comme au tribunal national, mais néanmoins, je reviens sur ce qui venait d'être dit, ça fait tâche pour un gouvernement d'être condamné ou en tout cas d'avoir des jugements ou des décisions qui tombent comme ça. Pour l'instant, il n'y en a eu aucune dans aucun pays, c'est encore trop tôt, mais c'est un vrai axe de progression pour faire valoir et rendre opérants les droits économiques, sociaux et culturels en termes de justice et de rendre compte.
Oui, juste quelques chiffres quand même. 193 États à l'ONU. 10 États seulement, le dernier, grâce à qui ça devient opérationnel, c'est l'Uruguay, merci l'Uruguay, 10 États seulement qui ont ratifié ce protocole. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la France, ça demandera encore du temps, et c'est pas parce que le Parlement aura accepté que le texte deviendra. Il faudra encore que le président de la République ratifie. Et le président de la République a tout son temps pour le faire. Je rappellerai juste une chose. Lorsque la France a enfin, a accepté en 1973, finalement, de lancer le processus sur l'acceptation de la Convention européenne des droits de l'homme, le Parlement avait accepté. Puis le président Pompidou avait dit oui, c'est intéressant, mais il n'y a peut-être pas urgence. Et finalement, c'est le président Poher qui a ratifié. Il a saisi l'occasion qu'il exerçait l'intérim pour ratifier la Convention européenne des droits de l'homme qui pourtant nous engageait très peu puisqu'on n'avait pas accepté le droit de recours individuel. Faudra attendre encore 7 ans pour accepter le droit de recours individuel. Mais ça prend énormément de temps. Et je dirais que quand on regarde la liste des 10 États qui ont accepté, ils ne sont pas très significatifs.
Merci. Oui, je ne lis pas les rapports d'Amnesty de manière régulière, bien sûr. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur les points sur lesquels la France est pointée du doigt, justement, par l'Amnesty ? Parce que, bon, je sais que les prisons, les choses comme ça, bon, on est tout le temps pointé. D'ailleurs, ça ne fait pas beaucoup d'effet. Mais est-ce que vous pouvez nous donner les autres points ?
Il y a différents points après à différents niveaux, mais actuellement il y a les questions sur les expulsions forcées de Rome, beaucoup. Et après des suivis d'interrogations qui sont toujours, enfin voilà, c'est un travail constant sur les questions de prise en charge des victimes de violences faites aux femmes, par exemple. Même s'il y a eu beaucoup d'avancées, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et beaucoup d'éléments aussi sur les questions de violences policières. Voilà, enfin c'est un peu les principaux champs. Champ d'intervention, je dirais, actuel pour Amnesty, plus ces questions de migration, asile. Il y a beaucoup de discussions vis-à-vis de la France sur l'accueil ou non, et la réponse est plutôt non, de réfugiés syriens en France. Il y a pas mal d'interpellations aussi là, sur ces dynamiques de réfugiés, demandeurs d'asile, sur l'espace européen, mais incluant également la France, et de faire en sorte que, que les États européens, dont la France, puissent aussi prendre leur part de l'accueil d'un certain nombre de réfugiés. Enfin, voilà, actuellement, la question, je dirais, la plus cinglante, en fait, en termes côté d'urgence extrême, c'est vraiment la question des Syriens, où c'est assez affligeant de voir que la France refuse de prendre un certain nombre de réfugiés syriens sur notre sol. Ça serait largement possible, mais voilà. Donc là, il y a un peu une fin de non-recevoir par rapport à ça. Donc voilà, c'est un peu les principaux champs d'interpellation du gouvernement français. Après, voilà, il y a pas forcément, ça ne fait pas forcément l'objet de rapport, mais il y a des suivis de situations sur des points précis, plus ou moins liés à l'actualité. Mais ça, c'est plus des communications constantes qu'on peut avoir avec l'État français.
Je serais tenté de dire aussi qu'il y a parfois des raisons politiques qui font qu'on ne va pas accepter les réfugiés de tel ou tel pays. Et puis, il y a aussi parfois une méconnaissance de la part de certaines administrations en charge de ces questions de la situation dans ces pays. Alors, on en a parfois des exemples. On en a parfois des exemples, mais je ne sais pas si vous avez vu ce petit génie des échecs qui est Bangladesh. Bon, alors heureusement qu'ils jouent bien aux échecs. Seulement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un refus pour accepter que sa famille puisse obtenir l'asile, tout simplement parce que bon, le Bangladesh, ça pose quand même pas de problème. Et le nombre de pays où on est effaré de voir l'ignorance sur les situations locales, c'est quand même, je trouve, très impressionnant. Et le Bangladesh fait en général partie de ces pays où là, ben non, il n'y a pas de problème. Alors là, non seulement il n'y a pas de problème, en réalité, il y en a sur le plan des problèmes, bien entendu, des pactes, du pacte sur les droits civils et politiques. Hein. Alors, il n'y a qu'à voir les élections qui se sont déroulées au début de l'année, au mois de janvier au Bangladesh. Et puis, les droits économiques, sociaux et culturels. Bon, malheureusement, l'actualité nous évoque les conditions catastrophiques dans lesquelles travaillent les personnes du Bangladesh dans les usines de textiles. Il y a peut-être quelque chose que je voudrais ajouter quand même pour que ce soit bien clair dans les esprits. C'est vrai qu'Amnesty dit, nous, pas de différence entre les droits économiques et sociaux et culturels et les droits civils et politiques. Amnesty dit cela, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une hiérarchie. Mais en France, c'est la même chose. Le Conseil constitutionnel vous dira, je ne fais pas de distinction entre la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est pour l'essentiel les droits civils et politiques, et le préambule de 46, qui est pour l'essentiel les droits économiques, sociaux et culturels. Mais quand on voit la réalité, on s'aperçoit qu'il y a des droits qui sont beaucoup mieux protégés que d'autres. Et d'ailleurs, à l'instant, on vient d'évoquer ce protocole additionnel au pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui vient tout juste d'entrer en vigueur. Il y a la même chose pour le pacte sur les droits économiques, sur les droits civils et politiques. Et tout à l'heure, quand je vous ai parlé du lancer de Nain, je vous ai dit que l'affaire était allée jusque devant l'ONU, justement dans le cadre de ce pacte. Or, cette affaire, elle est allée devant l'ONU, elle a été jugée en 2002 et le protocole existait déjà depuis un certain temps. Ça veut bien dire que nous, on souhaite qu'il n'y ait pas de distinction, mais en réalité, il y en a. Alors, il y a, je dirais, deux explications à cela. Première explication, c'est que les droits civils et politiques sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. C'est ce que l'on appelle les droits d'eux. Et qu'est-ce qu'ils exigent? Qu'on ne fasse rien. C'est-à-dire que surtout, l'État n'intervienne pas. Et à ce moment-là, ces droits seront souvent, disons dans l'ensemble, très bien protégés, très bien exercés. Tandis que les droits économiques, sociaux et culturels, c'est ce que l'on appelle des droits à. C'est-à-dire que ce sont des droits qui exigent une prestation, souvent, de la part des pouvoirs publics. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. De plus, les États n'aiment pas beaucoup cela, parce que vous entrez là dans des domaines qui sont... Quand vous parlez du droit au logement, vous commencez à toucher aux droits de propriété, vous commencez à toucher à des droits qui sont des droits un petit peu sensibles. Quand, si vous évoquez le droit à des conditions de travail décentes, parce que c'est le mot qu'on utilise, on n'utilise pas le mot digne, on utilise le mot décente, au Bangladesh par exemple, vous avez pas mal de donneurs d'ordre français qui ne seront pas contents. Hein, on le sait très bien. Et quand il y a eu les grands incendies, tous ont juré sur le cœur que plus jamais ils ne travailleraient avec ces entreprises. Bon, j'aimerais savoir ce qu'il en est dans la réalité. Et donc, c'est vrai qu'à Amnesty, et je dirais en tant que citoyen, en tant qu'individu, on souhaiterait que ces droits, eh bien, ils aient tous, en effet, la même protection. La réalité juridique et la réalité pratique, malheureusement, elle n'est pas ainsi, et c'est pour ça qu'il y a énormément de travail.
Avec quand même un petit bémol sur les droits économiques, socioculturels. Effectivement, la mise en œuvre est complexe, etc. Mais le pacte international, précisément, comporte des éléments justement en disant voilà, selon les ressources disponibles, l'État doit mettre en œuvre, etc. Mais stipule en même temps qu'il peut faire appel à l'aide internationale pour ça. Et souvent, en fait, un certain nombre d'États mettent des freins sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels en disant vous rendez compte, on n'a pas les moyens, etc. Souvent, quand on fait la corrélation, on se rend compte que leur budget à la défense, à l'équipement militaire, à l'équipement sécurité, répressif, est lui, par contre, très bien fourni par opposition au budget des ministères qui peuvent couvrir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux, culturels. Donc là, il y a déjà des fois des allocations de budget qui peuvent être revues, même si ce n'est pas le champ d'intervention d'Amnesty. En tout cas, il y a des éléments où on peut faire pression, on peut mettre en œuvre, en tout cas invoquer à ces États-là pour aussi dire, les pousser aussi dans leur retranchement en disant c'est parfois un peu facile d'invoquer le fait d'avoir peu de ressources, peu de moyens. Ça ne suffit pas. Il y a des responsabilités aussi ici. L'exemple sur l'incendie du centre industriel Rana Plaza au Bangladesh est un très très bon exemple où il y a des vraies responsabilités chez les donneurs d'ordre. Et c'est aussi pour ça qu'Amnesty, puis d'autres organisations telles que le CCFD, Sherpa, Éthique sur l'étiquette, on mène un travail depuis maintenant plusieurs années pour pousser la France à mettre en place une loi invoquant en fait des questions de mise en responsabilité des maisons mères par rapport à des activités de filiales ou sous-traitants dans d'autres pays, et dès lors que ces activités-là peuvent générer des violations des droits humains. Tout un travail d'interpellation, on est loin du compte, mais néanmoins, ça pose aussi la question que sur des situations telles que celle-là, bien sûr qu'il y a des responsabilités au Bangladesh, mais bien sûr aussi, il y a des responsabilités ailleurs, et ces responsabilités ailleurs, dont en France, on peut, nous, en tant que citoyens français, plus facilement les invoquer, en tout cas les faire remonter ou se mobiliser là-dessus pour faire pression.
Oui, j'avais une question, je vais arriver à la poser, sur la protection de la vie privée par rapport à la dignité également. C'est vous, monsieur, qui en avez parlé, je crois, monsieur Aurélien.
Oui, alors, j'en ai parlé, en effet, parce que la protection de la vie privée, là encore, je dirais que c'est quelque chose dans notre pays qu'on a découvert finalement assez tardivement. La protection de la vie privée, je serais presque tenté de dire, c'est comme le droit à la dignité. C'est-à-dire que c'est d'abord venu du juge. Alors on avait une vieille affaire que l'on évoquait au XIXe siècle, l'affaire Rachel. Rachel, qui était une grande actrice et qui avait été photographiée sur son lit de mort. Et le procureur Pinard avait dit que l'homme célèbre a droit à sa vie privée en parlant de Rachel. Je trouve que c'était intéressant. Mais en tout cas, il avait posé le problème de la vie privée. Et puis, on a complètement oublié cela. Et l'affaire est revenue sur la vie privée à travers la presse en 1965 avec une affaire assez nauséabonde où un journal, je ne sais plus si c'est Ici Paris ou France Dimanche, mais à l'époque, c'était les deux grands, avait été photographié sur son lit d'hôpital le fils de Gérard Philippe. Et un juge avait ordonné la saisie du journal, ce qui avait choqué, parce que saisir un journal, ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait admettre. Et le juge l'avait ordonné, et finalement, personne n'avait vraiment protesté, parce que c'était tellement odieux de la part des paparazzi que... Bon. Et puis après, on a vu des artistes dire « Ah, mais non, moi aussi, on a porté atteinte à ma vie privée. » Il y a eu, à ce moment-là, des procédures un peu abusives, parce que c'était aussi une façon pour ces artistes de se faire de la publicité. Donc, en 1970, on avait un trou dans le code civil. C'est comme dans la couche d'ozone, il y a des trous. On passait de l'article 8 à l'article 10. Et donc, on a dit ben, « on va mettre un nouvel article, l'article 9 ». Et cet article 9 a posé le principe du droit à la vie privée. Et on faisait une distinction, justement, entre le droit à la vie privée et le droit à l'intimité de la vie privée. Le droit à la vie privée, éventuellement, pourrait entraîner réparation devant les tribunaux, mais c'est tout. Le droit à l'intimité de la vie privée, lui, pourrait entraîner la saisie. Puis, on n'a pas fait vraiment la distinction. Il y a eu des saisies, ça a posé beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, je dirais que la question, elle se pose autrement parce que les moyens technologiques sont tout à fait différents. Mais ça veut dire qu'il a fallu attendre 1970 pour qu'en France, on voit dans un texte de loi mentionner le droit à la vie privée. Et c'est pour ça, quand on a eu ces rapports, avec le droit à la dignité, le droit à la vie privée était le droit que l'on voulait insérer dans la Constitution. Finalement, là encore, ça n'a pas été fait. Seulement, la grande différence entre le droit à la dignité et le droit à la vie privée, c'est que le droit à la vie privée, lui, il est protégé par les conventions internationales. Par exemple, par la Convention européenne des droits de l'homme. Or, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'un traité, c'est supérieur à la loi. C'est-à-dire que s'il y a un conflit entre un traité et la loi, la loi, on s'assoit dessus et c'est le traité que l'on applique. Et donc, mais malheureusement, là aussi, souvent, les magistrats connaissent très mal, parce que là, s'il y a une formation qui est très mal faite pour les non-responsables, c'est bien la formation en droit international. Mais là, si vous voulez, normalement, on doit appliquer le droit international. Et bien souvent... devant un magistrat, il suffit d'invoquer le droit international ou le droit communautaire, on le sent mal à l'aise et il sera très vite tenté de vous donner satisfaction. Mais c'est vrai que le droit à la vie privée, lui, est véritablement maintenant protégé, mais de façon expresse, ce qui n'est pas le cas du droit à la dignité, où à chaque fois, il y a une casuistique, à chaque fois, il faut attendre ce que va penser le magistrat. On n'est jamais sûr de rien.
D'autres questions ? Ben, je crois qu'on a épuisé le sac de questions pour l'instant. Et s'il n'y a pas d'autres...
Vous avez épuisé.
Ah, pardon. Non, il n'est pas épuisé.
Non, vous avez parlé des desks, des droits économiques, sociaux et culturels. Et notamment en prenant l'exemple des usines de textile au Bangladesh, en mettant en cause les donneurs d'ordre. Mais on s'aperçoit également que lorsqu'ils sont mis en cause, ils se déplacent. Ils étaient avant au Maroc, au Bangladesh, maintenant ils sont en Éthiopie, puis ils iront certainement sur Madagascar, c'est-à-dire ils vont dans les pays les plus pauvres possibles. Alors, comment on peut enrayer ce phénomène? Et puis d'autre part, il y a les donneurs d'ordre et puis il y a nous, les consommateurs aussi. Et vous savez très bien, toujours en prenant l'exemple du textile, que sur le marché de Belleville, qui est près du siège d'Amnesty International France, on trouve des sous-vêtements pour 1 euro. Alors à partir du moment où vous avez un t-shirt pour 1 euro, il y a quand même quelqu'un qui a perdu sa dignité. Et il y a quelqu'un qui l'achète aussi. Et qui, lui, également, est en grande difficulté pour acheter. Comment on peut lutter contre ce phénomène? Parce que vous avez dit les desks ont été davantage appliqués à partir du moment où on est sorti de la guerre froide, où ils ont évolué. Mais en sortant de la guerre froide, on est tombé dans la mondialisation et ensuite, actuellement, également dans la crise. Et j'ai l'impression que ces deux phénomènes-là ont refrainé et ont permis à certains États ou à multinationales de fouler les droits humains. Voilà.
Vaste sujet. Nous avons 5 heures. Pour le dernier élément, ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut vraiment faire des choses, etc. Je dirais que c'est aussi après à chacun d'apprécier. Peut-être que le principe à adopter, parce que ce n'est pas évident, hein, je crois qu'il y a un journaliste français qui a une expérience en cours de ne vivre et ne consommer que français pendant un certain laps de temps, et c'est assez compliqué, voire impossible sur certains éléments. Je crois qu'il en a un peu ras-le-bol. Il a déclaré forfait. Mais voilà, le principe qu'on peut invoquer, c'est d'essayer de faire le moins de mal possible, si c'est possible. Déjà, ça serait déjà pas mal si on commençait à faire ça. De se poser la question, c'est déjà un bon début aussi, de se dire moi, qu'est-ce que je consomme et quelles sont les conséquences de tout cela. Alors ça dépasse assez largement le champ d'intervention d'Amnesty. On n'a pas de jugement, pas de positionnement là-dessus. Après, c'est vraiment renvoyé vers une démarche citoyenne. Nous, ce qu'on peut essayer de faire, justement, c'est le travail qu'on fait avec que je citais là sur la question de la responsabilité des entreprises en matière des droits humains. C'est extrêmement complexe de suivre les foyers d'implantation de ce type de sous-traitance. Voilà, Bangladesh, avant c'était la Chine, après il y a aussi le Cambodge, il y a un certain nombre de pays, on sait que c'est très fluctuant, très tournant. Il y a plein de sujets comme ça où on voit que ça se déplace beaucoup, les prises d'intérêt. Pour nous, on n'a pas les compétences, on n'a pas les moyens de suivre ça. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de poser les questions et essayer de faire bouger les choses ici pour faire un peu plus de pression ici. C'est déjà... Voilà, pour nous, c'est en tout cas un point de départ. Il y a aussi tout un travail au niveau des Nations Unies sur des principes directeurs, justement, sur les activités des entreprises qui a pu être mené à bien et voilà, qui a le mérite d'exister. C'est loin d'être parfait parce qu'il n'y a aucun élément de contrainte dedans. Mais et ça, c'est ça qui nous gêne. C'est aussi pour ça que nous, on est là à faire ce travail-là en France pour tenter de passer des projets de loi où là, ça introduirait de la contrainte pour le coup et des poursuites en justice éventuelles. On se revoit dans 10 ans pour en reparler éventuellement. Voilà, ça c'est le type d'action pour nous plus susceptible d'être menée, en tout cas parce que c'est notre savoir-faire, et puis aussi parce que c'est là où on peut avoir un impact plus facile, parce que voilà, on va pas jouer au chat et à la souris avec les implantations dans différents pays, parce que ça peut changer tout au tout. Donc et puis voilà, enfin c'est pas notre métier non plus. Par contre, le droit, c'est notre savoir-faire, c'est notre cœur de métier. Et donc, c'est là qu'on va essayer de faire porter les choses et d'agir. C'est en pleine construction, il y a encore tellement à faire. Enfin, on l'a dit, hein, en parlant du protocole facultatif OPIDESC, la mise en œuvre, elle n'a même pas un an. En tout cas, l'entrée en vigueur n'a même pas un an. Il y a, enfin, à l'échelle des nations et du droit international, c'est rien du tout. C'est vraiment trop récent pour voir vraiment ce que ça peut donner, est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher. C'est une construction permanente et donc c'est un combat vraiment de longue haleine, un combat permanent. Voilà. Après tout, combien de temps ça a mis en France pour abolir la peine de mort? C'est ce type d'échéance que l'on raisonne quand on parle de ce type de dynamique de travail sur les droits. A fortiori, quand ça touche les échelons internationaux, ça prend vraiment longtemps. Après, ça se saurait si Amnesty abandonnait aussi facilement. Enfin, là, je renvoie aux plus expérimentés d'entre nous à Amnesty, enfin, sur le travail sur les prisonniers d'opinion. Moi-même, quand j'ai commencé Amnesty, j'ai beaucoup travaillé sur la Syrie dans mes premières attributions à Amnesty, où on suivait des cas de prisonniers d'opinion qui étaient détenus depuis 20 ans. Certains avaient passé autant de temps en prison que l'âge que j'avais à l'époque. Donc, enfin voilà. Et pourtant, Amnesty continue à travailler dessus. Là, on n'est plus sur forcément le même type de cas, le même type de problématique. Néanmoins, on est toujours sur des dynamiques de travail assez à long terme. pour poursuivre des résultats, ou en tout cas à chaque fois essayer de passer des étapes pour ensuite progresser et essayer d'avoir un meilleur niveau de mise en responsabilité des coupables de violations.
Oui, moi j'ajouterais quand même que même s'ils étaient pendant 20 ans en prison, le fait qu'Amnesty International suivait leur dossier, c'est ce qui les sauvait, je dirais, sur le maintien en vie. Parce que quand un prisonnier d'opinion, on sait qu'il est en prison, ça veut dire que les gouvernements font attention. Tandis que si personne ne le sait, bon, c'est tellement plus facile de les faire disparaître. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut bien voir à cet égard. Alors, sur la question que vous évoquez, j'aurais juste une question, mais malheureusement, j'en connais la réponse. Est-ce que Amnesty International a un statut d'observateur à l'OMC ? Eh oui.
Oui, ça c'est pas mal comme question. Il y a eu tout un travail. On interpelle de plus en plus des institutions type Banque mondiale, FMI. Et bon, l'OMC un peu moins, mais en tout cas Banque mondiale et FMI, il y a souvent régulièrement sur certaines situations des actions d'Amnesty qui sont directement adressées à elles. Je parlais beaucoup du Nigeria, à Lagos il y a des projets d'expulsion forcée qui sont financés par la Banque mondiale. Donc là forcément la mise en cause et la mise en dénonciation, la dénonciation peut se faire beaucoup plus facilement vis-à-vis de ces institutions-là. Pour le cas précis du FMI et de la Banque mondiale, mais évidemment, ce ne sont pas des institutions où on a un statut d'observateur quelconque. Ce qui est intéressant, c'est voir l'évolution aussi de leur discours, particulièrement ces deux-là, FMI, Banque mondiale. Pendant longtemps, ce qui nous opposait comme réponse, c'est de dire, mais vous vous rendez compte, vous faites référence à la DDH de 1948, nous, on a été créé par les accords de Bretton Woods, c'est-à-dire avant. Donc c'est normal qu'on n'y fasse pas de référence. C'était vraiment cash l'argumentaire qu'ils avaient pour dire voilà pourquoi nous on ne prend pas en compte les violations des droits humains, quand bien même les projets qu'on met en œuvre contribuent à les violer. Donc c'était quand même assez spécial. Petit à petit, ils sont mis à reconnaître que oui, il fallait prendre en compte les droits humains. Puis petit à petit, voilà, il y a un chemin aussi qui s'est fait. Mais oui, enfin, il y a des tas d'organes ou en tout cas d'institutions qui pèsent lourdement sur la vie de beaucoup de personnes sur lesquelles on n'a aucune prise, effectivement.
Oui, l'erreur, c'était peut-être d'utiliser la DUDH, mais vous auriez utilisé le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, et vous leur auriez démontré qu'ils ne connaissaient rien aux droits, parce qu'en général, quand il y a deux normes qui s'opposent, c'est la plus récente qu'on applique. Mais bon, il faudrait peut-être que je refasse des études de droit. Alors justement, là encore, vous évoquez le Nigeria, tout à fait intéressant, mais moi j'ai entendu parler d'expulsions massives en matière de logement lors de la crise des subprimes aux États-Unis. Quel a été le rôle d'Amnesty ?
Sur les États-Unis, je ne crois pas qu'on ait eu les moyens, enfin en tout cas on n'a pas eu d'intervention là-dessus. Après, ce qu'on distingue, c'est vraiment les expulsions, pas normales, mais en tout cas les expulsions et expulsions forcées. Après, ça c'est, il y a déjà un distinguo.
Il y avait des expulsions forcées aux États-Unis.
Bien sûr, mais qui faisaient suite à des jugements, etc. Après, oui, voilà, on manque d'informations. Enfin, on n'a pas conduit de recherche là-dessus, donc on n'a pas travaillé forcément sur ces situations-là, comme on ne peut pas travailler non plus sur tous les pays. Quoi.
Mais oui. Bon, enfin, je trouve que ça aurait été.
Oui, il y aurait probablement matière à travailler là-dessus, peut-être. Ouais. Il y a beaucoup d'autres organisations qui le font, notamment en Espagne, sur la question des expulsions en Espagne. Alors Amnesty ne suit pas forcément, mais après tout, dans le travail aussi qui a pu être fait par Amnesty Espagne sur la reconnaissance des DESC et la ratification par l'Espagne du protocole facultatif, ça pouvait aussi amener plus de moyens de pression de la part de ces organisations-là. Pour travailler contre les expulsions forcées, effectivement. Les États-Unis, de toute façon, sont loin de ce type de processus sur des institutions onusiennes.
Voilà. Il y a une hostilité des
Absolument.
États-Unis en ce moment à l'égard de tout texte international. Hein, Et ça date, je dirais, du début, enfin de la fin du mandat du président Carter. Donc ça remonte très loin.
Bien. D'autres questions ? Ben, non, je crois que c'est épuisé. Mais il me reste à vous remercier, évidemment, et à remercier nos conférenciers.
Merci.